Alerte au gogol, les enfants. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants.
Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio.
Non, c'est pas vrai.
Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule.
Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 6, mesdames, messieurs. Allez, nous sommes en direct, on est parti pour 1h30, voire 2h de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. Et ce soir, mesdames, messieurs, on va parler pognon. Et non, alors, il n'y a pas que Tagazu qui a fait les soldes, mesdames, messieurs, mais ce soir... Non, on le voit déjà venir, il va venir encore avec une brouette d'achat.
Oui, je vais vous raconter un petit peu mes soldes. Mais...
Oui, des teases même, comme on
je
dit
tease
dans
maintenant,
les
je
intéressés.
Tease, attention, je tease.
Yes, en tout cas voilà, on va parler un petit peu argent et c'est une émission qui me tient à cœur tout particulièrement parce que ça fait un moment qu'on voulait en parler de, surtout de ce sujet-là. Et donc, je pense que c'est une des seules fois où dans les médias, il y aura vraiment un droit de réponse. Et ça, c'est très bien. Je vais vous présenter nos invités dans un instant, mais je pense qu'ils méritent vraiment qu'on en parle ouvertement et qu'on rétablisse peut-être un petit peu des vérités. Voilà, comment je t'ai vendu
ou
du
pas.
Rêve à toi qui est en train de conduire là, mon petit pote. Un truc de ouf.
Allez, ça tease à mort.
T'as vu ? Comme d'hab, on est en live sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Il y a des caméras dans les studios, youhou ! Et on est aussi en live sur Facebook. Salut à vous, je vous envoie les applauses, les copains. Il y a un petit peu de people déjà, c'est cool. Tiens, sur le Facebook, il y a The Geek Universe, il y a Macoas, tiens, qui s'est fait porter pâle ce soir. Cof, joue à Fortnite, cof.
Exactement.
C'est un peu l'idée. Et il y a Dots Grog qui est là. Et puis, comme d'hab, vous laissez des messages, on lit tout en direct. Facebook, Twitter, comme d'hab, vous savez, la voix du geek, la voix avec un E. Bref, bon petit programme ce soir, mesdames, messieurs. Dans un instant, on se fait toutes les news, jeux vidéo de la semaine. Moi, j'ai 2-3 petites news. On en parlait avec Mogmo. Hors antenne, ça nous vient tout droit de Chine. Alors, ça concerne pas forcément le jeu vidéo, mais moi ça m'a fait halluciner.
Carrément.
C'est assez chelou. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite corrélation quand même avec le gaming. Ou pas. Bon, on débriefe ça dans un instant et vous allez voir, moi ça m'a fait halluciner quoi. On fait ça à 20h, on s'écoute un petit morceau. Tiens, c'est Taga qui l'a choisi, c'est Carpenter Brut. Mesdames, messieurs, je sais que c'est un groupe que t'affectionnes particulièrement.
Tout à fait. Et ils ont sorti un nouvel album il y a deux mois. Et du coup, il y a eu même un superbe concert que je vous recommande chaudement sur Arte. Il est sur YouTube d'ailleurs. Et voilà, il est très bien. Donc, écoutez du Carpenter Brut.
Oh yes. Dites-nous, tiens, tout de suite, j'ai zappé, mais si sur Twitch et Facebook, ça va le son. Si on est assez fort ou quoi, sinon je règle ça direct. Et puis, donc à 20h, on s'écoute ça. Et après, mesdames, messieurs, on va parler jeux vidéo, mais pas création, pas de test, comme on peut le faire d'habitude. Là, on va parler...
Argent.
Argent. C'est l'idée. On va parler business, parce qu'on a... Alors, je vais vous les présenter dans un instant, mais on a François qui est là, qui travaille à Micromania, mesdames, messieurs. Je t'envoie les applaudissements. On va revenir sur toi dans un instant. Alors voilà, alors j'entends déjà les viewers et tout, et justement, et c'est pas pour rien, parce que moi j'en ai marre d'entendre Escromania et tout, et jamais personne de chez Micromania...
T'as marre de l'entendre, mais t'es le premier à le dire.
Non, c'est même pas vrai, c'est faux. Alors ça c'est complètement faux.
T'es un mytho.
Non, ça c'est faux aussi,
mytho.
Ça. Complètement faux non aussi.
Mytho.
Tout est faux. Tout mytho. Ce que je veux dire ce soir, tout est faux.
Mytho, mytho.
Non, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, au moins, on va essayer de comprendre comment sont fixés les prix. Tout le monde râle après Micromania parce que c'est super cher. Tout le monde va chez Auchan parce que c'est 20€ moins cher. On va essayer de comprendre tout ça. On va faire le débat. Et juste après, bah juste en même temps, hein, on a Geoff. Tiens, Wayne, au lieu d'être sur ton téléphone...
Excuse-moi, je partage l'émission vu que tu l'as pas fait.
J'avais autre chose à faire. Mais tiens, passe-lui le micro, s'il te plaît. Yes.
Merci.
Et c'est Geoff de Diff Intel. Alors bon, il y travaille plus actuellement, mais voilà, il fait partie un petit peu, mais comme François, vous faites partie un petit peu des meubles des vendeurs de jeux vidéo de Bordeaux.
Ouais, non, je disais, on est un peu les dinosaures du métier, quoi.
Mais enfin, complètement.
C'est vrai que moi, j'y suis plus du tout, hein, mais ça fait 2 ans que je suis parti, mais j'en garde encore des bons souvenirs. Puis ça a dû changer, je pense que François va nous en parler.
Yes.
Oui, ça a changé la façon de vendre le jeu vidéo des plus... ne se suffit plus à lui seul.
Oui, bah oui. Ah, on va en parler justement, tu...
Ouais.
Le fameux Zing, c'est ça,
c'est... Exactement, c'est l'entreprise qui a choisi ce revirement, qui est stratégiquement sûrement une bonne chose. Après, il faut faire confiance.
Ah non, mais pourquoi pas.
Il faut faire confiance. Mais personnellement... en tant que vendeur...
Tagazu rigole beaucoup. Alors,
en tant que vendeur, c'est quand même beaucoup plus agréable de vendre des produits culturels d'univers geek que de devoir vendre des forfaits de téléphone ou des trucs. Oui, ou d'autres, se tourner sur autre chose qui était moins, pour moi personnellement, moins intéressant.
Ou des slips de bain comme Mogmo. Bon, je vais vous présenter tout le monde dans un instant, ils sont hyper dissipés. Bon, on commence direct. Allez, il est là, il est beau, mesdames, messieurs, c'est Tagazou.
Bonjour à tous et à toutes.
Comment ça va, mon poulet?
Bah, ça va, je suis content d'être là, j'ai fait des bonnes soldes, oui, j'ai joué à Kingdom Hearts. Tout va bien.
Mais bon, et je sais pas ce que vous en pensez, mais Tagazou, qu'est-ce qu'il est beau. Il est bronzé, c'est un truc de.
Regardez-moi. Ah ben, oui, il a dû prendre une petite semaine de congé.
Non, j'ai joué à Kingdom Hearts dans mon jardin et tout. tranquillou, donc je mets la crème à bronzer.
Je travaille sur les toits, t'es plus bronzé que moi, dis donc.
Ouais, bah c'est ça, hein. On travaille. Je suis sur les quais hein, en ce moment, bassin à flot, donc il fait beau. Voilà. Et oui, Kingdom Hearts, je voulais en dire deux mots, vu que Mogmo, on s'est un peu, écharpé avant de prendre l'antenne.
Il y a du clash.
Il y a du clash.
Vous avez balancé tout, après.
Non, parce qu'il a eu des mauvaises notes à l'époque, et je peux comprendre, hein, parce que franchement, la maniabilité...
c'est de la merde.
C'est de la merde, les caméras sont mal positionnées.
Tu fais les remasters, là, c'est ça?
Oui, je fais le remaster. Il paraît qu'il
a été amélioré.
Il a été amélioré.
Non, mais j'avoue que là-dessus, il y a eu...
Les objectifs, on ne sait pas trop... Non,
ça, c'est toi qui es mauvais. C'est parce que t'es facteur. C'est parce
On est deux. On est deux avec ma fille. Normalement, c'est censé être.
Je ne critiquerai pas ta fille.
Être pour un peu plus jeune comme jeu, c'est quand même pour un jeune public. C'est Disney. Et finalement, c'est assez dur pour elle. Et je suis quand même obligé de prendre la manette parce que sinon, elle y arrive pas du tout. Hein.
Ah, donc tu vois sous ses airs de jeu un petit peu Disney mélangé.
Ouais,
avec
mais
Final
c'est
Fantasy.
Plus complexe.
Oui,
qu'il paraît, hein.
C'est plus complexe. Là, je commence à avoir les invocations. Et tout, donc le jeu est intéressant. Hein. Je reviens pas là-dessus et tout, et je comprends qu'il y a des fans. Mais pour s'y mettre, j'ai un peu galéré. Ouais,
surtout
on a un peu galéré,
que ouais,
on s'accrochait,
tu t'y mets tard. Et c'est vrai que t'aurais commencé à l'époque. Je pense que ça serait passé plus facilement
passé,
parce que comparé à la concurrence, ça passait.
Ah ouais. Après,
il y avait des critiques forcément.
Après God of War, comme je disais la semaine dernière, ça fait mal.
Mais voilà.
Ça fait très très mal.
En arrière, oui.
Bah, c'est ça. Mais non, ça reste un remaster de PS2, donc
de
forcément.
PS2, les sauts approximatifs, les rochers où tu glisses, les caméras dans les combats qui sont à l'ouest. Enfin, t'as droit à tout ça. Et maintenant, on est un peu moins habitué à tout ça.
Et surtout que le jour où tu l'as fini, le second épisode en plus, c'est l'épisode DS qui se joue à base de cartes. Alors là, je te raconte même pas, mon gars, comment tu vas en chier. Parce que même moi, j'ai du mal.
Ça me donne envie. Ça me donne envie. Enfin voilà. Et puis j'ai fait les soldes. Voilà.
Oui,
je vous raconterai tout à l'heure. Je tease encore un deuxième teaser.
Compris.
Voilà, non, ça a été moins prolifique que les soldes d'hiver. Il n'y a pas de patron de supermarché qui est venu me voir en me disant vous achetez beaucoup. C'est pour quoi faire. Donc non, il n'y a pas de patron de supermarché qui est descendu cette fois-ci.
Écoute, bon, en tout cas, t'as trouvé des petits trucs.
Oui.
Dont un qui m'a ramené, je vais vous dire ça dans un instant.
Oui,
mais,
je vous dirai ça tout à l'heure.
C'est au moins 70% quoi. Hein. C'est, bon, après, c'est pas un jeu de ouf, mais là aussi je tease. Hein, tu vois, on va faire que du teaser en fait.
Ouais, que des teasers.
Ouais, une émission
de teaser.
Tease,
et puis,
carrément. Yes. Allez, tiens, passe-nous le micro à François qui est venu nous rendre visite. Je t'envoie les applaudissements.
Bonsoir.
Alors, comment ça va?
Ça va bien.
Que se passe-t-il
au niveau du magasin, tu veux dire?
Non, je voyais Tagazou. En fait, le truc, c'est que dès qu'il met son bras comme ça,
c'est qu'on t'entend pas très bien, en fait. On n'a pas un très bon retour de...
Ah, il faut monter là, ouais, ici, les copains. Il y a gavé de basse. Mon Dieu. Ah, attends. C'est parce que c'est l'émission des pépés d'avant.
En fait, notre retour est assez fort, mais c'est le tien qui est pas immense.
Ah bon? Je vais régler le problème, voilà. C'est mieux, non? Eh ben voilà.
Là, on t'entend mieux.
Allez, vas-y, François. On est en direct. Hein, vous avez l'habitude. De toute façon, on est comme ça, nous. Alors, tu joues à quoi, toi, en ce moment, du coup? Est-ce qu'on a le temps de jouer quand on vend des jeux vidéo? Est-ce qu'on en a l'envie, en plus?
Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé à travailler dans les magasins de jeux, c'était en 2002. Donc, ça commence à dater.
Ah ouais?
Et c'est vrai que je pense que ça a beaucoup altéré ma façon d'apprécier les jeux. Surtout du fait d'avoir accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, gratuitement.
Oh, comment il se la pète?
Bah ouais, c'est... Non, ça peut paraître bizarre, mais après...
Ah non, mais t'as bien raison, va.
Quand on dépense, quand on achète un jeu, ça lui donne peut-être plus de valeur.
Oui,
je suis carrément d'accord.
Plus envie de s'y consacrer. Là, par exemple, j'ai eu God of War, mais j'ai essayé, ça m'a plu, mais je me suis pas accroché plus que ça. Après, par contre, quand je télécharge des jeux en dématérialisé, que je ne peux cela donc pas avoir emprunté ou quoi que ce soit, ben là, je m'y consacre plus, étonnamment.
Ben oui, mais c'est pas pareil. Ouais, mais c'est un peu comme tout finalement. Oui, quand c'est un peu gratuit, voilà, du coup, t'as pas le même. Peut-être. Oui. Ouais, mais je vois. Yes.
Mais après, quand il y aura le prochain Soul Calibur, là, je peux être sûr que je serai dessus. Il y aura pas de.
Yes.
Là, y a, yes. c'est autre chose. C'est plus. Plus une passion qu'un divertissement.
Oui, c'est un truc plus perso.
Voilà, complètement. Voilà.
Yes. Et puis, il est beau, mesdames, messieurs, je renvoie les applaudissements. C'est Geoff.
Hey, bonjour. Bonsoir.
Parle bien dans ton micro, mon poulet. Je suis hyper content de te recevoir.
Eh écoute, fait kiffer, quoi. Je te l'avais promis il y a très longtemps, donc yes. Ce soir, c'est la première.
Première fois en radio ou pas?
Radio, non, c'est pas la première, mais en jeu vidéo, oui. Si, ouais.
Yes.
Et du coup, ben, si c'est pour rebondir un peu sur la question que tu as posée à François, moi, je joue un peu plus aussi depuis que j'ai arrêté de travailler dans un magasin de jeux vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'ai plus de temps aussi.
Oui.
Mais
oui,
par
oui.
contre, c'est vrai qu'il y a ce côté effectivement illimité de pouvoir emprunter des jeux, de pouvoir les faire, et c'est vrai que ça va pas vraiment valoriser le jeu parce que tu sais plus comment choisir ton jeu finalement. Par contre, je me suis beaucoup mis à acheter des jeux indépendants, et ça me plaît. Parce qu'effectivement, c'est des jeux que j'ai envie de publiciter, de revendiquer, de critiquer même, de faire des petits textes sur internet pour les faire connaître. Notamment Détention, que j'aimerais aborder ce soir, peut-être que j'en parlerai plus tard parce que c'est pas le moment.
Oui, bien
mais...
sûr, hein.
Un survival horror taïwanais qui est incroyable, qui pareil a été fait par un studio qui est inconnu, Red Candle Studio, qui est un studio qui va revenir bientôt avec un jeu qui s'appelle Dévotion. Et j'ai écrit sur ce jeu récemment dans le magazine Immersion parce que je voulais en parler.
Comment il se place, quoi.
Ah bah ouais, non mais attends, il faut là. Et donc ce jeu-là fait partie de toute cette mouvance de jeux indés que j'ai voulu m'acheter et que je suis en train de faire, parce qu'il y en a plein que j'ai pas encore fait. Il y a des bonnes surprises, il y en a des moins bonnes, c'est sûr, mais voilà, c'est la nouvelle approche que j'ai, parce que j'ai plus le temps de le faire qu'avant,
et ça
me plaît beaucoup.
Ouais.
Un victime des soldes Steam, il achète, et puis il n'a pas le temps de les faire, comme la plupart, 90% des gens qui achètent sur Steam les soldes.
Ah, c'est voilà. L'idée, ouais. Yes, allons, on enchaîne, tiens, avant d'être en retard, il est là, il est beau, mesdames, messieurs, c'est Wayne.
Salut à toutes, salut à tous.
Comment ça va, Bichon?
Eh bien, écoute, ça va très bien. Une nouvelle semaine qui commence, donc ça ne peut qu'aller.
Yes.
Exactement.
Bon, tu joues à quoi, du coup?
À rien du tout. J'ai pas touché la console de la semaine, que ce soit la Switch, PS4 ou
ça
One.
Arrive.
J'ai
ça,
pas
ça
touché. D'aille. Série, Coupe du Monde.
Ah, tu suis le foot?
Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien ça, donc voilà.
Apparemment, le public, moins. Mais...
Ouais, qu'est-ce que tu veux? Personne n'est parfait.
Non, mais moi, j'aime bien la Coupe du Monde. Je vais te dire pourquoi. Alors, je suis pas du tout foot, mais c'est les matchs. Ils sont improbables. Genre, tu vas te taper Pérou contre le Japon.
Puis cette année, on est gâtés, en plus. Hein.
C'est des mix improbables.
Il y a des belles équipes de sortie.
Cette année, c'est un peu la Coupe du Monde qui favorise les outsiders, si je puis dire.
Oui, c'est vrai.
Et donc, du coup, c'est assez intéressant. Bon, je regarde pas tous les matchs. Mais j'ai regardé quand même quelques-uns. Et puis là, sinon, du coup, vu que j'ai pas fait de jeu vidéo, en série, on vient de faire la première partie de la saison 4 de Fear the Walking Dead.
Ah bien.
Qui est pour moi au-dessus, qui est passé au-dessus de Walking Dead classique. Hein.
Donc le spin-off, c'est ça, hein, c'est l'idée.
C'est le spin-off, yes. Tout à fait. Très bonne série. Donc je la conseille fortement, surtout à Tagazu si tu l'as pas faite encore.
Moi j'ai fait la première saison et puis j'ai arrêté après.
Ouais, ça, ouais, part, ça monte en puissance.
Avec le sosie officiel de Johnny Depp jeune. Hein.
Ouais.
Non, mais il lui ressemble à quelque chose de fou. Hein.
C'est vrai que Nick, il lui ressemble pas mal. Et en même temps, j'ai commencé Sense8.
Voilà. Oui, yes, ok.
Alors, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus.
La meilleure série de Netflix.
Voilà, donc. Entre temps, je regarde, quand j'ai pas envie de regarder Sense8, j'avais commencé Bob's Burger. Petite série animée.
Et mais c'est hallucinant, mais personne n'en parle. Moi, j'ai commencé Kiss Me First, la fameuse série avec la VR et tout là. Un peu comme Ready Player One.
Ah non.
Elle est sortie il y a 2 jours et
sur Netflix.
Ouf. Oui.
Bah écoute,
je vais vous
pas
en
vu
dire
passer.
Un mois après.
Pas vu passer, donc écoute, on va attaquer ça aussi alors. Bah, si
le
c'est
truc,
bien.
C'est que le bandeau, tu sais, Netflix, il est pas hyper vendeur. C'est un truc sur la VR comme Ready Player One, sauf que le bandeau, c'est pas ça du tout. C'est une petite nana, t'as l'impression que c'est un truc un peu girly dans l'univers de la fête. Alors pas du tout.
Bon, eh ben écoute, je commencerai peut-être ce soir, on verra.
Yes, alors justement...
je suis sur la 3e saison de Papa Schultz. Je suis à fond.
J'adore ce mec.
Les années 80 ont appelé.
Les années 80,
ouais. Ils veulent te récupérer, Tagazu.
Et d'ailleurs,
sur
d'ailleurs,
top des séries.
D'ailleurs, en parlant des années 80, on a deux anniversaires. Enfin, un anniversaire à fêter aujourd'hui d'un dessin animé très connu qui, je pense, a fait qu'on est tous devenus un petit peu geek. Et puis, il y a aussi une disparition. Alors, les plus jeunes qui écoutent l'émission, j'en vois sur Facebook et sur Twitch, là, ils vont pas capter la référence, mais c'est Corbier. Dès que c'est mon tour, en hommage, on se met un petit coup de de corbier quand même. Façon de parler, calmez-vous. Mais bref, il y a le chat, il est complètement déchaîné, quoi. C'est un truc de ouf. Alors il y a Break de Chasse, tiens, je lui envoie les applaudissements. C'est un pote à moi, je pense que c'est Romain, j'ai dévoilé son identité secrète. Il y a Goustique qui nous dit vive la Belgique. Il y a Grand Tourinoub qui vient d'arriver. Il dit Fear the Walking Dead qui dépasse la série de base. Voilà, bah tu vois. Il y a Léa qui est là. Et sur le Facebook, on a Nathan qui nous dit je vous aime. Waouh.
On nous envoie de l'amour sur Facebook.
Ah, mais complètement. Mais moi, j'ai une demi-molle là, je te le dis. On commence déjà très bien. Et les beaux, mesdames, messieurs, c'est Mogmo. C'est le seul gars qui a des t-shirts usés neufs.
Exactement. Et ben tu sais, ce t-shirt.
Est-ce que tu.
Il revient de Montréal, mon gars.
Ah, j'allais dire.
Ça fait plaisir.
C'est le voyage qu'il a usé.
Voilà. On te l'a offert malgré toi après une triste affaire de piratage de cartes.
C'est un peu ça, ouais. Oui, parce que comme d'habitude, pour les gens qui nous suivent depuis quelques temps, oui, j'ai la poisse. C'est pas nouveau. Et donc dans
la poisse à ce niveau-là, c'est le chat noir
c'est,
qui
t'habite. Il a quand même qui est passé quoi. Sous une échelle qui enfin voilà. Et donc ouais, on m'a piraté ma carte bleue. Je remercie d'ailleurs la personne qui a essayé
je
de payer
un max.
Je pense
qu'elle nous écoute ce
pour
soir.
Pour les 4000 t-shirts que j'ai reçus à domicile.
Non mais ce qui est génial, c'est que sur les trucs qui sont partis du piratage, il y a des trucs de lingerie quoi.
Bah je sais pas si c'est de la lingerie, le nom du magasin ou du site internet, je ne sais pas, fait penser à de la lingerie parce que ça s'appelle dessus dessous.
Bon, après c'est dites-nous peut-être... les viewers, cherchez sur le net vite fait.
Ouais cherchez, j'ai pas regardé moi ce que c'est.
Allez voir en historique privé parce que si jamais c'est du porno,
Si c'est du porno, surtout faites gaffe à votre carte bleue, ne la sortez pas pendant que vous êtes sur le site, on sait jamais. Mais la mauvaise news pour ma part, c'était piratage de carte bleue cette semaine, enfin la semaine dernière donc.
Et en plus, tout à l'heure, il arrive, non mais Poissman comme l'appelle Wayne, il arrive, il me dit je peux te prendre ton téléphone parce qu'en fait il a bloqué le sien, il a pas changé le code PIN d'origine. Et en fait, dans sa poche, il s'est éteint. Et pour le rallumer, mais il avait pas le code PIN. Voilà. C'est très cool ça. Vraiment, tu me fais halluciner. Je t'envoie les appuis.
Non mais il faut savoir que
j'ai la poisse. Enfin, c'est...
que Mogmo et je vais pas dire son prénom est Robot Paradise à eux deux, je pense que sur une semaine, t'as 7 jours dans une semaine, t'as 6 jours de poisse.
Ah mais carrément.
À eux deux cumulés.
Bah, le truc qui est relou, c'est que ça donne pas trop envie de partir en vacances avec toi, tu vois. Moi j'ai peur en avion, enfin t'oublies quoi. Moi je prends le train.
Justement, en voyage généralement tout va bien.
Voilà. Bah putain, Dieu merci quoi.
C'est normal.
Bon, après, on m'a piraté ma carte bleue, on a essayé 99$, donc potentiellement, c'est peut-être pendant que j'étais en voyage, tu vois.
Non, mais on en rigole et tout, mais faites attention avec les achats en ligne et tout. Hein, suivant les banques, il y a des trucs de protection. Heureusement, t'es à la caisse d'épargne. Moi, le crédit mutuel, c'est pareil. Ils t'envoient un petit truc, genre ils te demandent
si c'est bien toi qui as payé.
Ouais, complet. Mm-hmm. Parce que 1099€. Hein.
Ouais, on a tenté. Ça pique. 1099€, 99$.
Bon,
après,
avec
j'ai eu
avec
des paiements
1099,
qui sont passés,
il est malin quand même. Il a pas mis 1100€, tu vois.
Il a peut-être fait un achat qui coûte 1099.
Bon, depuis,
il a pas acheté une télé 4K ou une télé OLED là en promo.
C'est ça qu'il faut que je fasse
pour acheter mon OLED là.
Non, mais depuis, j'ai trouvé qui c'était. C'est Tagazu qui a essayé de faire les soldes avec.
Ah oui, 1099€, c'est le. Oui.
C'est à peu près ça.
C'est
à peu près ça. C'est Chris qui va revendre le quadruple
Saint-Eulalie.
Un prochain vide-grenier.
Le Leclerc Saint-Eulalie.
C'est ça, ouais.
Il y a Grand Tourinoub qui nous dit oui. Apparemment, c'est une marque de lingerie en plus haut de gamme.
Ah, et gourmande.
T'essayes pas de nous faire passer ça comme un piratage de cartes et en fait, vous êtes enflammé avec Robot Paradise et...
Est-ce que c'était du cuir? Je ne sais pas.
Ah bah, je peux pas te dire, ils me regardent. J'en sais rien, c'est pas moi.
Non, mais je demande aux viewers.
Ah.
Cherchez. Si c'est du luxe, je veux savoir ce que
c'est. S'il y a du cuir, ça l'intéresse. Cuir moustache, il est preneur.
Yes. Allez, moi, tiens, j'enchaîne. Mais t'as joué à quoi, du coup?
Eh ben voilà, justement, du coup, je n'ai pas beaucoup joué, mais j'ai vite fait les soldes. Et je me suis pris un petit Marvel vs Capcom Infinite avec un pad aussi. Je n'avais pas, je suis très mauvais au pad, mais je l'ai pris un peu pour la collecte. Et le Marvel, je l'ai topé à 15€, il a baissé à 15€, là, donc j'en ai profité. Et voilà.
Yes.
Je préférais la SWGA en compétition, d'ailleurs. C'est le. Oh non, c'est le jeu qui est passé complètement inaperçu apparemment au niveau e-sport et compétition.
Mais carrément, ouais. Comparé aux anciens.
Il
n'est
plus
qui...
joué, je crois que c'est le jeu qui est sorti et qui a été le plus vite oublié.
Il faut
Dragon Ball
Il lui faut un micro, sinon on l'entend pas les copains.
Non, en fait, Marvel Ultimate, le dernier, il est sorti en septembre et pas eu de très bons retours, que ce soit au niveau des pro-gamers ou même des critiques grand public.
Et le moi, personnellement, je trouve que graphiquement, il est pas top. Quoi.
Ouais,
je l'ai pris parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Mais déjà, graphiquement, je le trouvais un peu plastoc.
Oui,
il
a 100 défauts en plus, on va dire. Ouais. Et après, son plus grand défaut, c'est qu'il y a Dragon Ball qui est sorti juste et après. Voilà. Et qui a, même aux États-Unis, qui est censé être le bastion des Marvel Capcom, c'est Dragon Ball qui a pris le dessus. Et les meilleurs joueurs de Marvel jouent à Dragon Ball. Il y a toujours un petit peu de tournoi Marvel qui traîne dans les gros événements. Mmh. Mais c'est de l'ordre de... Ils ont 100 joueurs alors qu'il y a... Qu'à Dragon Ball, ils vont en avoir 500. Donc
en termes de système, en plus, c'est un peu le même style. Donc
on retrouve,
c'est du 3v3. Yes. Sur les mêmes bases. Quoi.
Taga, tu voulais rajouter un truc?
Non, rien du tout, je vais juste reprendre le micro.
Ok. Écoute. Et si tu veux, on peut t'en installer un chez toi.
Ah ouais, je veux bien.
T'es juste le pied de micro, comme ça, tu te mets bien.
Petite cabine insonorisée, et voilà, hop, ça sera parfait, écoute. Je fais l'émission chez moi.
Il va se mettre en arrêt, il va rester chez lui pour faire l'émission.
Alors tiens, il y a Gribouille, qui nous dit « Salut les gars, j'espère que vous pourrez dire un petit mot sur nos tableaux, mais t'inquiète, c'est noté. Je vous dis ça dans un instant. Ben moi, j'ai joué à Tumble VR. Est-ce que vous vous rappelez de Tumble ? C'est un jeu, en fait, qui était sorti... Oh, bah, la tête de Taga. Avec les PlayStation Move à l'époque. On t'entend pas, faut que tu prennes un micro, mon poulet.
Top Gun sur NES ?
Non, Tumble.
Tumble, pardon.
Ah, je sais que
Tumble.
J'ai un anglais dégueulasse, mais bon...
Tumble.
Et en fait, c'était un jeu pour vendre un petit peu les PlayStation Move à l'époque, rappelez-vous. Et en fait, c'était t'empiler des cubes de bois, un peu toutes les matières, il faut faire des tours et tout. Et oui, sauf qu'il vient de sortir en VR, et c'est un petit bijou. Il doit coûter 3-4 euros, et franchement, mais c'est un truc de dingue, je me régale, c'est hyper beau. T'as les matières, le bois, le polystyrène, les trucs, et c'est très très bon. Alors, je sais que Geoff, il a le VR aussi, ouais. Et Wayne aussi.
Ouais, c'est du vrai cap-plat en VR, quoi.
Non, mais c'est, et franchement, c'est assez génial. Il te demande, voilà, alors t'as des contraintes. Alors, Wayne, il est mort de rire. Parce que voilà, mais oui, mais toi tu.
J'ai pas pris le VR pour ça, merci.
Eh oui, mais c'est bien dommage. Comme
c'est un peu ce que je disais la semaine dernière, tu vois.
Eh oui, mais non, c'est couillon. Ça, en ce moment, on est sur le platine. On est sur le platine de Far Cry 3 avec Kogu. On le fait en parallèle. Le remastered qui était prévu, enfin qui est dans le Season Pass de Far Cry 5. Il est très bien. Ça met une bonne claque graphique. L'herbe est toute verte fluo. C'est un truc de ouf. Franchement, il est très bien, il a très bien vieilli. Il est peut-être un poil cher. Le Season Pass était à 30 euros de Far Cry 5. Seul Far Cry 3 Remastered, il est à 30 euros.
Ouais.
Donc, une fois de
plus.
C'est
cher quand même.
Une fois de plus, il se mouche pas trop. Voilà. Ouais.
Hein. Il existe en boîte, je l'ai vu.
Oui, il est en boîte, ouais, carrément. Et non, franchement, il est très bien. C'est très agréable, ça fait du bien. Bon, ça reste un Far Cry, mais c'est sur une île paradisiaque. Il y a toute une histoire et tout. C'est très cool. Et justement, la série dont je vous parlais, qui est sur Netflix, qui s'appelle Kiss Me First. En fait, c'est une petite nana qui est pas, qui est un peu, comment on dit ça, introvertie. Et en fait, il y a dans cette, c'est un futur, à mon avis, très proche. Il y a aucune date vraiment. Et en fait, sur PC, il joue un espèce de Second World, mais en VR. Et en fait, elle, elle a une vie pas terrible, elle vient de perdre sa mère, elle est un peu penaude, machin, c'est pas trop son délire, sauf que dans ce jeu, elle est plutôt badass. Et en fait, ça parle un petit peu de ça, et elle rencontre une autre nana, qui elle, c'est tout le contraire, elle traîne en boîte, elle fait la teuf et tout, sauf qu'elle se rencontre en fait dans ce jeu-là. J'ai maté que le premier épisode, mais pour l'instant, ça sent pas trop mauvais. Le truc, c'est qu'en fait, une fois qu'elle met le casque, son image de synthèse, et ce qui me fait un peu bugger, c'est qu'on dirait un petit peu Arthur et les Minimoys. Vous voyez le graphisme ? Pas au niveau du chara-design, pas au niveau du chara-design, mais au niveau du
scénario. Oula.
Non, mais tu sais, au niveau graphiquement. Au niveau des, tu sais, du truc quoi. Ça fait réalisme et vite fait un peu dessin animé, tu sais pas trop.
Oui.
Ce qui fait que j'ai un peu décroché de temps en temps toutes ces séquences là en fait, ce qui est dommage. Parce que quand dans Avatar, tous les moments où ils sont dans le truc, c'est les meilleurs passages quoi. Là, ça y fait un peu penser. Et bon, à suivre, à voir. On nous a réclamé même de parler de séries régulièrement. Essayez de mater au moins le premier. Ça parle de VR et tout, c'est quand même plutôt cool. Et j'enchaîne aussi, tiens, avec donc c'est il loue le message, c'est Gribouille. Donc ça s'appelle Emblématique, le hic avec un K, emblématique.artwork. Et en fait, c'est un papa et son garçon qui s'appelle Thomas. Et ils font du pixel art, ils ont une page Facebook, je vous invite à aller la visiter. Je leur avais promis d'en parler pendant l'émission. C'est emblématique avec un K.artwork sur Facebook. Allez jeter un œil, et ils font du pixel art, de manga, de plein de choses comme ça. Allez y jeter un coup d'œil et puis n'hésitez pas à liker aussi. Voilà, je leur avais promis. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il s'est passé quelque chose de dramatique pour les gens, bah, plus de notre génération peut-être. Mais voilà, alors j'ai presque peur de balancer ça en direct à la radio.
J'avais vu en vrai, j'avais pris un selfie avec lui, j'avais discuté. Je lui avais touché la barbe.
C'est vrai. C'était beau.
Quel moment.
C'est vrai en plus, exact.
C'est un grand moment de radio, nous on le voit en direct, il est en pleine jouissance hein, quand même.
Non, je pleure. Les devins, les sorciers. Ah, le nez de Dorothée, tu vois.
Alors, les plus jeunes auditeurs, ils vont sûrement pas trop capter qui c'est ce mec, quoi. Quelqu'un nous raconte un petit peu?
Bah, je pense que Taga, c'est le. Oui, même
oui
je pense que c'est le mieux placé. Ouais.
Oui, Corbier.
Allez, papy Corbier Tagasou,
faisait,
vas-y.
Faisait partie de cette superbe équipe composée de Patrick Simpson-Jones et de Jackie dans le Club Dorothée. Il faisait cette superbe émission qui est Pas de pitié pour les croissants.
Exactement.
Où il faisait des sketchs, on va dire, parodiques. Voilà, où c'était plus ou moins rigolo. Même moi, à l'époque, je voyais que c'était pas toujours très drôle. Mais oui, plutôt.
Avec le recul, moi j'avais 7 ou 8 ans. François, ça doit être pareil. On a à peu près le même âge. Maintenant, avec le recul, ça doit piquer quand même.
Voilà, mais en fait, à l'origine.
Déjà,
il était
à l'époque,
quand même...
moi je trouvais pas ça super drôle. Quoi.
Ah,
il
j'avais
tardait
pas
le dessin animé
moi.
D'après.
Voilà, c'est ça. C'était le passage entre deux dessins animés. C'était pas forcément drôle. Mais il faut savoir que Corbier, quand même, c'était le chansonnier du groupe. Il faisait de la chanson avant un peu. Voilà, satirique, ce qu'il fait d'ailleurs avec le nez de Dorothée.
Oui, un chansonnier.
Chansonnier, ouais. Voilà. Et donc, voilà, il faisait quand même des choses avant. Et c'est vrai que, bon, il a trouvé ça un peu pour gagner son beurre. Et voilà, il s'est retrouvé dans des situations qui étaient un peu loufoques. Donc, c'était plus ou moins rigolo. Mais ce qui était enfin, ce que je trouvais sympa chez cet homme, c'est qu'il avait toujours un recul. Et un second degré par rapport à ce qu'il faisait. Il savait que c'était pas drôle, que bon,
quand,
bah voilà.
Quand tu fais des émissions pour enfants, à mon avis, il faut.
La tarte à la crème, voilà, je sais pas si vous vous rappelez du méga. Voilà, Splish Splash Plouf, il se prenait une tarte à la crème, enfin, c'était truqué, on savait qu'il allait la prendre, quoi. Donc voilà, il s'est. Et il racontait ça après dans un livre, ben, qui, je l'ai vu dans les conventions, il traînait dans les conventions, il vendait un livre, et puis il racontait des anecdotes comme ça où. Il disait qu'il savait, mais bon, voilà, hein, et combien de tartes à la crème il s'est pris pour gagner sa vie. Et franchement, voilà, il a vécu
77 ans, ça va, c'est cool.
Donc
après,
voilà, on... c'est triste qu'il s'en aille. Mais
oui,
bon,
bah,
c'est
la vie.
C'est la vie.
Mais justement, on vous en a parlé récemment. Ce qui va se passer, c'est que c'est vrai qu'on vous l'a promis depuis 1000 ans. On va faire une émission sur les émissions, justement, de télé, sur le jeu vidéo et tout, et les dessins animés, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup. Ouais. Mine de rien, en France, on a eu quelques-unes, sans parler de No Life at Game One, qui sont un peu généralistes ou machin, qui parlent vraiment que de ça. Mais on va parler un petit peu des émissions à l'occasion.
Ouais, après, Club Dorothée a eu une grosse, grosse partie. Hein.
Oui, voilà, oui. Alors voilà, pour les plus jeunes, 90, voilà, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il faisait partie du Club Dorothée. Alors c'est vrai que ça était un petit peu Dorothée, notre grande sœur, tous les mercredis après-midi. Ils enchaînaient des dessins animés. C'était une émission de ouf, le Club Dorothée. Hein. Des fois, ça durait 8 heures. Tu avais 8 heures de direct avec des musiciens, des artistes et tout. Hein. Et ils enchaînaient les dessins animés, voilà. Ouais, non, c'était assez ouf. Il y a François, vas-y.
Ouais, je voulais juste te dire un truc, ça peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais on a.
Voilà, en fait, il était complètement drogué.
Voilà, non, on a tiré beaucoup de louanges sur Dorothée par rapport à ce qu'elle a fait, qu'elle faisait une audience énorme. Mais moi, je me souviens qu'en tant que spectateur, même à moi, à petit, ça me saoulait, j'en avais marre de leurs sketchs et de tout ça. Tout ce que je voulais, c'était voir les mangas. Ils ne mettaient que les mangas à suivre, c'était tout ce qui m'intéressait. Et Dorothée était en soi l'animatrice, mais c'était pas ça. Enfin, pour moi, qui faisait l'intérêt de du Club Dorothée.
Ah non, non, pas du
c'était
tout.
C'était les mangas.
Et justement, putain, mais François...
Je me souviens qu'à la 5, sur la 5, à l'époque où ils passaient les mangas, il n'y avait pas de présentateur, ça enchaînait. Et c'était quand même... on évitait tout ce qui n'était pas intéressant.
Bah,
pour
après,
avoir vraiment
c'était
aller
un
à
petit peu pour gagner du temps, je pense. Toi, c'était une manière de. Voilà, ils faisaient des plateaux entre chaque animé pour peut-être étirer un peu l'émission à 8 heures de direct.
Non, puis il ne faut pas oublier que c'était une émission pour les enfants à la base et que déjà que les mangas étaient critiqués à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Par rapport à la violence et tout
oui,
ça.
Puis, oui, voilà, il y avait une espèce de décalage.
Voilà,
il
fallait combler avec des trucs un peu plus enfantins, je
quand
pense, un peu plus débile.
Passer à l'émission 30 millions de copains où voilà, c'était une émission où il fallait récolter des sous pour les copains qui ne partaient pas en vacances.
Oui, dit, c'est vrai ça.
Et voilà, c'était voilà, tout mielleux, tout plein de bons sentiments. Et au milieu, il te calait un épisode d'Alerte à Malibu avec les bombasses qui couraient sur la plage.
Juste après,
c'était en décalage
quoi.
Total. T'étais là, ouais. Oui, donner des sous pour les copains et tout. Puis d'un coup, les bombasses d'Alerte à Malibu qui arrivaient comme ça. Donc voilà, beau. C'était un peu en décalage. C'est vrai, les sketchs par rapport au manga, par rapport au contenu. Mais moi, je trouvais que c'était quand même voilà, du 3e, 4e, 5e degré. Mais bon, tu.
Alors, n'oubliez
tu
pas les
auditeurs
que
t'as cerveau,
quand
quoi.
Même 74 ans.
Voilà.
Moi, j'ai pas le même recul en fait. Moi, je regardais ça. Après, j'ai pas vraiment de souvenirs. Plus des dessins animés,
oui.
des trucs entre les deux. Bon, je me rappelle pas trop. Et justement, tiens.
Ah oui, le dromadaire qui parlait. Et
oui,
tout.
Exact. Ouais, voilà. Après, il y avait des trucs très ringards. Salut les musclés et tout. Salut les musclés. Déjà, à l'époque, c'était neuneux.
Ah oui.
Et justement, tiens, c'était l'anniversaire d'un manga bien connu qu'on a découvert justement grâce à Dorothée, parce qu'on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais finalement, c'est quand même elle qui a acheté tous ces animés, qu'on a les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant le mercredi après-midi, fallait oser quand même. Et du coup, et ben là, c'est l'anniversaire d'un manga bien connu. Allez, hé, chez toi, tu montes le son, l'autoradio à donf, mon petit pote, mets-toi bien.
Attends, je savoure là. Même si je préfère le troisième opening de. Attention.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Goldorak, il y a au moins 200 génériques.
Ah oui, il y a 5
ou 6 pays, génériques.
Et, au Japon, il y en a encore plus. D'ailleurs, on a tout mis ça. Si on pourrait l'inviter dans une autre émission, il peut vous parler de toute cette génération. Il connaît les génériques en japonais par cœur. Et Goldorak. D'ailleurs, il vient de sortir qu'il y a un an en DVD parce qu'il y avait des problèmes de droit et donc on le trouvait pas nulle part en complet, toute la série complète en DVD. Et là, elle est sortie il y a un an et puis elle est encore très chère, donc j'attends que ça baisse un peu. Mais ça a quand même un petit peu vieilli. Hein, j'ai regardé.
Mais moi,
c'est
j'ai
mal vieilli.
Non, mais c'est surtout.
Ou ça sera bientôt sur Netflix. Moi, ouais, je sais pas s'ils auront les droits sur Netflix.
Ouais, faut voir. Mais moi, j'ai des souvenirs de Goldorak. C'était donc le héros, c'était Actarus. Dans un instant, on s'écoute le Scud, on fait les news. Vous inquiétez pas. Hein. Et en fait, c'était terrible parce que ce mec-là, il avait des meufs. Et à chaque fois, elle se sacrifiait un petit peu pour sauver la Terre et tout, quoi. Et genre, t'as plusieurs épisodes où t'as les meufs d'Actarus qui se suicident pour sauver la Terre, quoi.
Oui, genre... non, mais c'était pas super joyeux, hein. C'était quand même...
Non, mais c'était terrible, quoi.
C'était terrible, hein.
Comme beaucoup de mangas
pas,
à l'époque.
Hein. Les Golgoths, à l'époque, ils rigolaient pas. Hein.
Non, mais complet.
Ils gagnaient pas, enfin, ils gagnaient souvent. Voilà, on a l'impression qu'ils gagnaient souvent, mais des fois, il y avait des fins tristes. Alcor, voilà, il a mal fini. Si... Enfin, je ne vais pas tout spoiler là aussi. La série,
nous raconte pas la fin d'une série qui a 40 ans, s'il te plaît.
Voilà, attention, je ne raconte pas.
Décode
mais
pas,
voilà,
quoi.
C'était les premiers animés où on apprenait que voilà, il y avait une autre vision des dessins animés, pas toujours. Voilà, c'était pas rose bonbon et que voilà, il y avait. Ça pouvait être dur aussi dans les dessins animés. C'était un peu plus adulte. Ça faisait du bien. Mm.
Ah tiens, il y a Sgrog qui nous dit « J'ai fini par voir l'ultime épisode de Goldorak et punaise avec des petits émoticônes qui font moins. »
Ah oui, voilà. Il fait
ah non, mais c'est terrible. Yes. Bon, est-ce qu'on envoie la musique des news ou on fait le tour de l'actualité vidéoludique
oui.
de la semaine? Allez, c'est y part. Ah si. Eh ben vas-y.
Ah bah j'y vais tout de suite. Ah, je vais parler de la news qui va faire rigoler quand même. C'était sur Fortnite, la fin de la saison 4.
Ouais.
Avec un petit événement qui avait lieu à 19h30 samedi heure française avec le décollage de la fusée. Je sais pas si vous suivez Fortnite, mais
j'ai
carte
vu passer
avait été...
vite fait. Il s'est passé un truc chelou, non?
Voilà, ça avait été remanié la carte. Il y avait une comète qui s'était écrasée sur la carte et il y avait une fusée qui était en préparation qui allait décoller. Voilà, c'était le décor. Et là, il y a eu cet événement pour marquer la fin de la saison 4. Elle a décollé. Et pour assister à ce spectacle à 19h30,
c'est des génies les mecs qui font
Fortnite. Il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de faire une trêve dans le serveur. Ils ont dit oh bah on fait une trêve et tout, on veut tous voir un petit peu l'événement, ce qui va se passer dans la carte. Et donc on va faire une trêve. Il y en a même qui ont fait une trêve et qui ont monté des plateformes pour mieux voir, pour être plus voilà comme des gradins. Et un petit jeune qui s'appelle, alors son pseudo en plus, on ne sait pas si c'est un enfant ou si c'est réellement un adulte qui l'a fait exprès. J'ai plus son nom, mais c'est pas grave. C'est Elemental Ray, voilà. Et Elemental Ray, on ne sait pas s'il a compris un petit peu le principe ou s'il l'a fait exprès, mais lui il a posé du C4 sous la plateforme où il y avait à peu près 47 personnes.
Ah bah, tu vois, qui on a regardé 48 apparemment.
Hein,
48
avec lui. Et donc lui bah il a pas compris et pendant que la fusée décollait, bah il a fait exploser tout ça et il a fait 40 il a battu le record de kills sur Fortnite, 47
joli.
Kills dont lui hein, il s'est... Alors est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce que c'était un joueur qui a rien compris au délire et qui a oh bah moi je mets du C4, c'est cool, il bouge pas.
Si ça se trouve c'est un mec qui venait juste d'avoir le jeu, il s'est fait
il
sa
a pas
première
compris
game,
le délire quoi.
Il a posé le truc, il s'est dit bon ben bah, je vais faire un max de kills et puis voilà. Ouais.
Franchement, oh, c'est pas très sport, c'est pas chevaleresque,
c'est pas chevaleresque,
je valide de ouf.
Mais est-ce que ce record va être validé parce que je pense qu'ils vont pas le valider quand même, ça n'a pas été fait exprès. Enfin, on sait pas.
Mais si t'arrives sur le jeu maintenant et que tu sais pas qu'il y a un décollage de fusée, moi personnellement, j'en ai
oui,
un
oui,
fou
oui,
de la
oui,
fusée.
C'est ça. Ça se trouve, il est arrivé. Mais...
Oui, non, mais complètement.
Mais bon, quand même, pour poser du C4, faut quand même savoir un petit peu jouer. Faut avoir. Je pense que le gars, quand même, il savait un petit peu jouer et que hein, il a dit oh, j'ai
là,
pas fait exprès.
C'est peut-être celui qui a proposé la trêve qui a fait ça pour avoir le record de kill.
Le traître. Et ça, c'est encore plus validé, ça. Parce
ah
que
ouais,
ça, c'est mortel.
C'est très génial. Non, mais apparemment.
Tu le fais toujours avec tes potes. Rappelez-vous, bah, le fameux alors Battlefront 1, même s'il a prouvé un succès de ouf, on y a tous joué. Mais à un moment, tu peux descendre dans une map et il y a la fameuse bouche de le Sarlacc. Rappelez-vous.
Ah oui, oui.
Et tu dis à ton pote, oh putain, t'as vu comment
Anthony,
c'est trop bien
fait.
Ouais, grave, regarde d'en bas comment c'est bien.
Ah oui, il lui a mis une manchette et voilà. Oui, c'est le truc de gamin, mais là, quand même, 47 joueurs. Et puis en plus, après, il y a eu quand même pas mal de messages de haine sur les Reddit et
mais,
tout, de forums
mais,
de gars.
C'est ça le problème.
Vraiment,
ils prennent trop tout au sérieux
ah,
tout
ouais,
le temps.
Ouais,
quoi.
Ouais, ils l'ont pris quand même vraiment mal. Et du coup, je pense qu'il faut qu'il change de pseudo, sinon il va avoir des problèmes.
Bah, dans pas longtemps, on va pirater son compte. Il va y avoir le SWAT chez lui.
Tout ce qui ferait plus que la carte bleue de Mogmo soit liée au compte.
Bah,
et voilà, bizarrement.
Ce qu'il faudrait, c'est que ça aille pas trop loin pour lui.
Parce
que
c'est quand même le jeu le plus populaire. Donc je pense
un jeu vidéo.
Voilà. Des joueurs qui, voilà, qui l'ont en travers, mais bon, voilà, il a pas fait exprès. Il y en a qui diront ça à héros, il y en a qui diront ça à zéro.
Oh,
voilà.
C'est un troll, franchement, il a géré. Moi, j'aime bien.
Ouais,
puis
j'aime
le
bien.
Gars, il a du kiff, et c'est sur le tableau.
Non, mais ce qui serait énorme.
Puis même mort lui. Hein.
Ce qui serait énorme, c'est qu'on apprenne qu'en fait, c'est un mec, c'était sa première game ou sa deuxième game. Enfin, moi, personnellement, le décollage de la fusée, je l'ai vu sur internet. Mais
pareil.
Si je rentre en game et que je vois une fusée, ça m'intrigue pas plus que ça. Tu
le
vois.
Gars, il a pris 20 niveaux d'un coup. T'es là
non, mais voilà. Et ce qui serait drôle, voilà, c'est qu'on apprenne que c'est qu'on a. Prennent, oui, que c'est un mec qui arrive juste sur le jeu, ça fait sa troisième ou quatrième session.
Ce serait énorme pour lui. Ouais.
Il n'y avait pas forcément l'histoire et que voilà.
Eh bien, écoute, on va lui ça. Demander parce qu'il est là ce soir, mesdames, messieurs.
Elemental Ray pour nous.
Ah, bonjour. Bonjour, j'ai 6 ans.
Ça peut être ça.
Yes, allons, on enchaîne. Tiens, Wayne, une petite news.
Eh bien, on va parler des jeux mobiles.
Yes.
Et un jeu mobile que notre ami Tagazu a fait, c'est Super Mario Run qui a généré, depuis sa sortie en 2016, 60 millions de recettes.
Ah, ouais, quand même.
60 millions de dollars.
Je trouve que c'est pas justifié parce qu'il est pas bon. Voilà,
mais alors, c'est quoi, c'est un runner
et,
alors,
voilà,
c'est un runner.
Je critique Nintendo et je le dis.
Qui est en free-to-play.
Super Mario
et si tu veux débloquer tous les niveaux...
Ah, c'est que des achats in-game, tu veux dire?
En fait, si tu veux débloquer tous les niveaux, si tu veux pas...
ouais, voilà,
voilà,
c'est 10€.
C'est 9,99€. Et donc, en fait, après 2 ans de parution, parce qu'il est sorti en 2016, 77% des revenus reviennent des pubs sur l'Apple Store.
Ah oui, oh putain.
En sachant que la principale pays touché, c'est les États-Unis.
Ce qui est terrible, c'est que ces pubs, on les voit, on peut pas trop les passer, et en fait, le fait qu'elles soient là, ça rapporte de la thune,
voilà.
Quoi. C'est un truc de
77%
ouf.
Des pubs là, sont sortis aux États-Unis, donc là, on parle vraiment que du continent américain, ont généré sur ces 77% 43% de dépenses. Donc, c'est-à-dire que sur les 77%, il y en a 43% qui ont acheté le jeu total au final.
Donc il y a quand même des gens qui ont envie d'y jouer, tu sais, qui aiment le
voilà,
challenge. Quoi.
La licence Super Mario, mais moi tu l'as trouvé bien. Alors
tiens, prends
grand,
le micro,
grand débat.
Alors je l'ai trouvé bien. Après j'ai pas une expérience vraiment dans ce type de jeu qu'on appelle les runners. Mais après je trouvais qu'il était très très bien adapté au mobile et très marrant. Après j'ai pas acheté, j'ai fait que les niveaux gratuits.
Yes. Mais à mon avis il y a beaucoup de monde, tu vois, comme toi, tu sais, si c'est pour
Eh bien, c'est ça le problème. C'est que c'était pour appâter un petit peu, j'ai l'impression, le client, parce que le niveau gratuit était très bien, j'ai adoré. Et après, ben, ça monte pas comme dans tous les Mario où ils te rajoutent des choses. Plus en plus, il y a des pièges, il y a des nouveaux mondes et tout. J'ai trouvé que ça allait pas assez loin et que finalement, ça restait un petit
basique.
Peu à ce qu'on avait découvert voilà, dans les premiers niveaux. Et c'est pour ça que j'ai dit, ah non, c'est pas un Super Mario comme ils nous le proposent d'habitude, où ça monte en skill, où ça monte en... voilà, en difficulté, non, ou en gameplay, et non, là, il n'y avait rien, ça changeait pas, en fait. Et c'est ça qui était dommage.
Donc, vas-y, vas-y, je t'en prie.
Donc, en fait, il y a 43% des dépenses qui viennent des États-Unis et seulement 17% du Japon. On pourrait penser qu'effectivement, le Japon serait beaucoup plus consommateur. Donc, c'est un très bon score pour Nintendo, mais ils sont pas à leur coup d'essai. Parce qu'il y a Fire Emblem Heroes qui est sorti donc sur mobile, ça fait un an, et Fire Emblem Heroes a généré 295 millions de dollars de recettes.
Ça, il est un peu
la somme de ouf.
Voilà. Non, et le nouveau Animal Crossing qui est sorti.
C'est la paye de Mogmo à Gosport, dis donc.
Bah, c'est ça.
À pas de zéro près.
À quelques zéros près. Et il y a Fire Emblem, il y a Animal Crossing Pocket qui est sorti il y a 2 mois et lui il est en train de générer déjà en 2 mois 20 millions d'euros de recettes.
Oh, mais c'est ouf, non, mais les prix
donc
que ça
comme
rapporte.
Quoi les jeux mobiles ont la cote.
Bien sûr.
Et il y a un marché à étudier pour tous les constructeurs de jeux vidéo.
Nintendo qui voulait pas se lancer dans les jeux mobiles, du coup là je pense que c'est encouragé.
Ouais. Je réagis un petit peu au chat, on nous réclame beaucoup. Alors vous savez que là ça y est, on est en juillet et on va faire un format un petit peu particulier. Voilà, c'est nos émissions des vacances et on nous réclame une émission sur les jeux de société. Alors, le truc, c'est que pourquoi pas, c'est vrai qu'on en a parlé plein de fois à l'antenne et tout. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais si vous avez des jeux à nous proposer...
Proposer Space Crusade, parce qu'on y a joué
voilà, on peut tout à fait proposer Space Crusade fait avec Tagazu.
Moi, je peux vous... Si vous voulez, alors, on va pas faire une partie en direct, mais si vous voulez, j'ai Doom en jeu de société, et j'ai même Super Mario World en jeu de société que j'ai ramené du Japon.
Ah, ça peut être rigolo. Après,
oui, tu sais, c'est un tricky bille.
Ah oui, c'est tricky bille,
ouais.
D'ailleurs, Brice, est-ce que t'avais acheté le Dark Souls en jeu de société?
Et non.
Parce que ça peut être terrible aussi, hein.
Mais d'ailleurs, t'as vu, il y a une blague très drôle, le Dark Souls, c'est t'enlèves le couvercle, et le premier truc qu'il y a dessus, le papier, écrit « You die », comme dans le jeu, quoi. c'est très drôle. Et d'ailleurs, à l'époque, on en parlait avec Kogu, et genre, je me suis acheté les bandes dessinées de Bloodborne. Et en fait, il y a des commentaires Amazon, et le gars dans le commentaire, il fait bon, c'est, franchement, c'est n'importe quoi, on meurt pas à chaque page, c'est bon, j'aime pas. Toi. Voilà, bon, bref. On vous cale ça, on vous fait une petite émission. Mogmo, du coup, toi, t'es un peu galéré au niveau des news, tu veux j'enchaîne.
N'ayant pas de portable aujourd'hui, j'ai pas trop pu. Alors, attendez, il y a Wayne qui essaie de me donner une news.
Ça va être très radiophonique.
Je lui donne une news.
J'enchaîne rapidement parce que c'est un petit truc à mon avis.
Je vois pas du tout ce que c'est, donc je vais pas en parler. Mais ouais, j'ai pas de news. Voilà. Allez, la bise.
C'est
à la semaine prochaine.
C'est tout pour moi.
Je dis rapidement, c'est pour notre ami Imac qui était venu dans l'émission. Et Volant 2 vient de sortir sur Android.
Ah voilà. Bonne nouvelle.
Ça, c'est cool. Moi, j'enchaîne avec... Alors, c'est une news qui va faire parler. Dans 3 minutes, on s'écoute Carpenter Brut. Alors, vous savez qu'ils sont en train de bosser sur un film live action sur Sonic. Est-ce que vous savez qui est pressenti pour Robotnik? Je fais des rimes de ouf.
Jim Carrey.
Joli. Je t'envoie les applaudissements.
Mais ils sont sérieux?
Ah bah oui. Alors, le truc, c'est que physiquement... Bon, après, Jim Carrey, c'est un très bon acteur. Moi, j'aime beaucoup.
Enfin, c'est un film live ou...
Oui. A priori, oui. Hein.
C'est pas une image de synthèse, c'est pas juste pour faire la voix, quoi.
Ah oui,
avec
la voix
un
encore,
vrai
ça peut passer.
Mais...
un vrai hérisson.
Avec un pain en bleu et tout.
Qui fait 20 cm.
De toute façon, ils feront toujours mieux que Super Mario, le film.
Mais moi, je l'aime bien. On a déjà eu ce débat, on va pas remettre le couvert, là. Hein. Mais moi, je le trouve assez sympathique. Il a un côté kitsch que j'aime bien. Bon, alors, pour ou contre, Jim Carrey, Robotnik, ça sort de nulle part, quoi.
Oui, parce que c'est un très bon acteur, quand même. Hein.
Ah oui, moi, je suis très
seul,
fan. Geoff, prends le mic.
Il peut tenir le film à lui tout seul, je pense.
Ah oui,
ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah, c'est un homme qui a fait du one-man show hein, avant d'arriver à ça. Et on l'avait bien vu. Je sais pas si vous avez pu voir sur Netflix, il y avait eu un film qui a été fait sur Andy Kaufman, justement, sur tout ce qui avait été fait pendant le film pour le tourner. Et Jim Carrey, c'est plus qu'un acteur, en fait.
Ah oui, carrément.
C'est un showman.
Après, il est assez transformiste aussi.
Oui, 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 oui.
Si tu lui mets un costume adéquat, quoi, franchement, avec ses grimaces, son humour et tout, je pense qu'il peut faire quelque chose.
Il faut qu'il ait une belle part aussi dans le film pour pouvoir briller. Ben
voilà,
ne pas cantonné à que des apparitions.
Et apparemment, ce sera Goustique qui serait pressenti pour le hérisson.
Ah,
il sera pour le niglo, mon copain.
On s'en doutait un peu.
Yes, t'as une autre news, Taga?
Non, pas de news.
Ok, moi j'enchaîne, j'ai plein de trucs. Vous avez vu qu'il y a Amazon qui a fait. Ah bah, Wayne, excuse.
Ah non,
j'en ai pas. Vas-y, prends le mic, vas-y.
Je n'ai pas d'autres news. C'est juste parce qu'il a même pas eu le temps de dire non, j'en ai pas que. Ok, moi je vois cette chaîne.
Mais non, parce qu'on écoute le disque dans pas longtemps.
Dans 25 minutes à peu près.
Oui, voilà, c'est l'idée. Il y a Bloodborne 2 qui a été annoncé sur Amazon sans le faire exprès. C'est une petite glissade comme ça. Une fuite, donc a priori, ils se trompent rarement quand même quand ils annoncent et qu'ils font la fiche d'un jeu. C'est qu'en général, il est dans les tuyaux. Alors, pas de news à l'E3. C'est assez étrange d'ailleurs, parce que s'il est pour bientôt, on n'en a pas vu du tout.
Ah oui, pas du tout.
Après, il y a plein de jeux qui n'ont pas été annoncés à l'E3 et qui potentiellement pourraient arriver. Et en fait, on n'en sait pas plus, quoi. Donc, je sais pas si les créateurs de jeux vont pas garder quelques cartouches pour d'autres conventions ou d'autres.
Il y en a quelques-unes qui arrivent d'ailleurs.
Il n'y a pas Leipzig. Ouais, il y a la Gamescom. Cologne, ouais. C'est Cologne maintenant.
Ouais, ouais.
C'est Leipzig, enfin en Allemagne.
L'an dernier, la Gamescom, c'était pas un gros succès en termes d'annonces. Ouais, peut-être que cette année, ils ont gardé un peu
en
plus.
En octobre, il y a le Tokyo Game Show. Bon, il y a plus beaucoup d'annonces au Tokyo Game Show maintenant, mais.
Ouais, mais va savoir.
Bah, sachant que. Prends un micro, mon poulet, sinon on t'entend pas.
Ouais, donc après il y a la Paris Games Week où ils annoncent parfois.
Oui, c'est vrai.
L'an dernier, ils avaient présenté Ghost of Tsushima à la Paris Games Week. On l'avait pas vu avant. Ouais. Et il y a aussi le PlayStation Day où ils annoncent, par exemple, l'année dernière, ils avaient annoncé le très attendu Soul Calibur 6.
Oui.
Voilà, qui sort donc le 19 octobre, je rappelle. Au PlayStation Day.
Non, mais ça se tient parce qu'en plus c'est une exclue. Donc tu vois, ils ont peut-être gardé cette cartouche.
Voilà.
Yes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi je voulais vous en parler. Alors, c'est la police chinoise qui va bientôt s'équiper d'une arme, mesdames, messieurs. C'est un truc de ouf. Un fusil d'assaut laser. Et c'est pas une vanne. Et en fait, c'est un fusil d'assaut laser qui brûle la peau. C'est non létal. Parce que alors, le nom, il est improbable. Hein. C'est... le nom, il est ouf. Tu lis, c'est putaclic de ouf. De la carbonisation immédiate, mon pote. T'as l'impression le keuf il va et tu sais tu disparais, tu sais tu t'es liquéfié.
Combustion spontanée.
Non mais tellement. Et en fait c'est un peu comme un flashball sauf que ça tire un rayon laser et en fait il te fait plein de petites brûlures, 1000 à chaque fois que t'appuies sur le bouton et en fait ça brûle tellement que t'en tombes dans les pommes et voilà comme le flashball en fait.
Ah ouais, mais tu crames.
Moderne,
voilà. Et en fait, ça ressemble un petit peu à un fusil d'assaut comme on peut voir dans les jeux vidéo. Voilà. Et apparemment, ça va jusqu'à plus d'un kilomètre. Et ça traverse les vitres.
Waouh.
Ce sera peut-être le fusil de Kaneda dans Akira.
Va savoir. Non, mais et voilà. Et en gros, si tu veux te l'offrir, il existe déjà. Tu peux te l'acheter pour 13 000 euros.
C'est pas cher
pour faire chier tes voisins.
Que Tagazu va le trouver en solde en plus. Donc,
voilà. Tu leur grilles le huc.
Allez, on fera un essai la semaine prochaine, je vous le trouve en solde.
Et là, on soulève un gros problème, c'est que ce genre d'arme soit disponible à la vente.
Ah oui, c'est bien possible. Oui, non, mais complètement.
Ah, c'est non létal.
Oui, non, mais c'est non létal.
C'est pas énorme. Hein.
C'est pas énorme, 13 000 euros. Enfin, non, personnellement, je trouve pas ça. Tu peux acheter une bagnole pour 13 000 balles, t'achètes pas une voiture, t'achètes une arme pour. Tu peux pas tuer les gens, mais pour faire du mal.
Bon, rappelez-vous, c'était. Enfin voilà, on vous incite pas à acheter n'importe
quoi.
Bien sûr. Enfin, moi, j'ai mis le lien sur la page Facebook.
Moi, va recevoir du courrier et tout, genre, les gars.
Ça me
je vous rappelle que l'Infernal touche un pourcentage sur ses armes.
Ouais, sur ses armes. Il a 20% sur chaque vente avec le code promo l'Infernal 33.
C'est ça. Surtout moi, comme je kiffe les armes à feu, mon pauvre. Bref, allons, on s'écoute le Scud. On revient dans un instant. Et puis, on va parler oseille, mesdames, messieurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont loupé le début de l'émission, moi, je suis très content qu'on fasse cette émission et qu'on ait ce débat parce qu'on va parler un petit peu oseille, on va parler grande distribution, magasins spécialisés, on va parler des magasins de vente de jeux vidéo. On a ici la chance d'avoir François qui travaille chez Micromania, on a Geoff qui a bossé pendant des années dans une boutique un petit peu plus indépendante.
Ouais, complètement indépendante, ouais.
Yes. On va comparer tout ça. On a Mogmo qui a travaillé dans la grande distribution.
Entre autres,
oui.
J'ai même des petites boutiques aussi.
Yes.
Et des grandes chaînes aussi. Donc.
Yes, j'ai bossé à la FNAC. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. On va essayer de comprendre d'où vient cette différence de prix qu'il peut y avoir, par exemple, entre Micromania et puis Diffintel, quoi. Des trucs comme ça.
Puis toutes les légendes urbaines autour des reprises. Tous les clients qui vont taper souvent sur les anciennes parce qu'ils ont été mal servis une fois et qui vont crier à Escromania, n'est-ce pas?
Oui, ce genre de choses, on va essayer de débriefer ça, le fameux Escromania, parce qu'on va essayer de comprendre.
Et je vais pouvoir parler des reprises aussi, personnellement.
Oui, c'est ah oui, exact, oui, j'avais oublié, ouais, carrément. Toi, il y a Cascouille qui nous dit Escromania, mais carrément, ben justement, et voilà, vu qu'il n'y a jamais eu de droit de réponse vraiment trop dans les médias, on va en parler un petit peu ce soir, et on va essayer de comprendre déjà quel est le prix de revient d'un jeu, combien font des marges, est-ce qu'un jeu, ça coûte vraiment 69 euros avec sa boîte, avec son truc, sachant qu'ils vous vendent le même sur en démat, au même prix. Ça c'est terrible. Bon bref, allez les 20h, passez de quelques minutes, il est 20h04, mesdames, messieurs. On revient juste après Carpenter Brut, et il s'appelle comment le morceau ? Laser Teeth.
Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3.
La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio.
Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants!
Oh. Mesdames, messieurs, allez, nous sommes de retour toujours en direct. Et j'ai failli oublier, mais Tagazu a mis son monocle, a sorti sa canne.
Tout à fait.
Il va nous raconter un petit peu ses prises. Et oui, j'ai complètement oublié, des soldes, mesdames, messieurs.
Les soldes de Tagazu.
Exact.
C'était mercredi matin, il était 9h.
Je vais vous raconter un truc, Kogu, il est passé à la maison vers 10h30 boire le café, il me fait « j'ai déjà croisé Tagazu, oui. Il a fait 10 boutiques ».
C'est vrai. Il était 9h30 et non, j'avais fait une boutique, la principale, puisque maintenant les soldes se passent qu'à Carrefour, pratiquement, hein, je vous le dis. Les soldes d'hiver étaient assez prolifiques, hein, j'étais allé un peu partout, Carrefour et tout, super prolifique. Et là, franchement, j'étais à l'ouverture du magasin, à l'ouverture de la grille, même avec un petit vieux, on se demandait d'ailleurs s'il y avait les soldes, parce qu'on n'était pas beaucoup. Donc ça m'a fait bizarre, d'habitude il y a toujours un ou deux qui courent, même pour les jeux vidéo, hein, il y en a un ou deux qui courent devant moi et tout, bon je les laisse courir.
Bah, mais t'as plus 20 ans tu sais.
Non mais ça me fait rire, mais voilà, je veux pas être le premier à être dessus, mais il va falloir que je m'y mette parce que maintenant ça devient de plus en plus dur les soldes, avec l'effet YouTube et l'effet Kirby 51, c'est ça ? 54, voilà, j'ai oublié trois numéros, excuse-moi. Kirby.
Et qui c'est Kirby 54 ?
Ben, c'est un YouTuber qui présente, qui est très très populaire et qui présente en fait ses soldes, ses retours de vide-grenier, ses retours de
soldes.
D'accord. Voilà, et maintenant, c'est un peu la référence. Si tu veux savoir ce qu'il y a eu en soldes, tu regardes tout de suite la vidéo de Kirby 54, même si le gars au niveau... au niveau montage, au niveau diction, au niveau jeu, d'ailleurs, de culture vidéoludique, il connaît pas. Enfin,
c'est
pas.
Un youtubeur très controversé parce que.
Il connaît pas grand chose des fois. Non. Bon, après, je vais pas le critiquer parce que je veux dire,
il est très critiqué, mais déjà.
Il a une passion et je comprends tout à fait cette passion puisqu'on partage un peu la même d'aller chercher le matin en vide-grenier, d'aller trouver des nouveaux objets. Mais c'est vrai que des fois, il présente les jeux. De façon un peu rapide et il connaît pas, je l'ai vu passer à côté de pièces inestimables sans connaître un petit peu la valeur vidéoludique.
Quel âge il a ?
J'en sais rien. Après il est pas tout jeune, hein. Je pense qu'il a une trentaine d'années.
Voilà. Et du coup, tu peux y aller, hein, retour de vide-grenier, retour de solde sur internet, tu tapes ça, jeux vidéo, il y en a partout, hein, il y en a à Bordeaux, il y en a 4 ou 5, tout le monde se met à faire des retours, un peu comme les unboxings, il y en a autant. Donc okay. Du coup, maintenant tu sais tout, et moi j'étais content d'être tout seul, hein. Il y avait quand même des jeux, alors j'ai fait une petite liste, hein, surtout sur PS4, on est tombé à j'ai trouvé un Rime à 5€,
joli,
ça fait plaisir, un Life is Strange à 5€.
On l'a eu d'offert sur le PlayStation Plus.
Oui, il était offert, mais en boîte, tu sais, c'est puis 5€.
Je savais même pas qu'il était en boîte d'ailleurs, Rime.
Ben ouais, moi aussi je savais même pas, mais tu vois, comme quoi.
Tu parles du premier avec un coffret collector, l'OST, tout ça, ou c'était une version boîtier plastique ?
C'est une version boîtier plastique.
Ah ouais, parce que moi j'avais eu la version collector où tu avais effectivement l'OST, une carte plus grand format, enfin.
Ouais, non, c'était.
Ok.
Qui était devenu hyper rare d'ailleurs très vite.
Non, c'était 5€. J'ai eu donc For Honor que je t'ai donné.
Oui, à 10€.
Il y a eu Life is Strange aussi à 5€. Alors le premier, j'ai trouvé en plus édition après limitée Before the Storm. Mm.
Oui.
Avec le 1 du coup qui était compris à 20€, j'ai trouvé que ça valait le coup parce que t'as les deux, je les ai pas fait, puis je les ai pas fait gratuitement la dernière fois sur le PS Store. J'ai trouvé Fire Emblem, bon 10€ et tout ça, je les avais déjà. Les Amiibo Zelda que j'avais pas à 7€, même le gros, le gardien. Ça, donc, tu vois.
Ça coûte combien un Amiibo à la base ?
Ouais, les Amiibo Zelda, ils le soldaient. Tu vois, des fois, tu te demandes si les supermarchés vivent dans le monde que nous, où les Amiibo Zelda étaient très recherchés à une époque. Bon, maintenant, ils en ont ressorti. Hein. Mais à une époque, c'était quand même très sorti. Et eux, ils les soldent, je sais pas. Oui, ils se sont tous vendus. Persona 5 hein, en édition Steelbook à 10€. Tu vois, ça vaut vraiment le coup.
En hypermarché, moi qui y ai bossé, les Amiibo, clairement, c'est la tolle, quoi.
Voilà, ils étaient presque, dans certains carrefours, ils étaient tous à 7€.
Ah ouais.
Tu pouvais tous les avoir. Donc,
ça se vend pas dans les hyper.
Les Zelda Twilight Princess Wii U, j'en ai eu aussi à 10€. Metroid, voilà, Return, ça va 20€. Et tout ça dès le matin et après plus rien parce que voilà, maintenant il y a beaucoup de monde. Je salue mon copain Pierre qui lui il est dans un magasin à 9h et ils étaient trois à être là, dont deux voisins du vide-grenier geek qui venaient acheter. Et à mon avis, pour revendre après, donc ça devient un peu malheureux. Mais
bah, ça devient un business au final.
Oui, ça fait un peu business.
Ça devient complètement un business.
Ah oui, non, mais
et toi, t'arrives le soir, t'as fini à 19h, t'arrives derrière, il te reste FIFA, Call of.
Pas le
FIFA,
soir, je pense.
FIFA, Call of.
Voilà. Non, mais t'as raison, trop.
Non, mais franchement, moi, ça mais me fout la carte et j'en parle même plus parce que. Moi, non, mais ça me
tu
fait
sens
chier
une petite rancœur
derrière. Non, mais tu vas au vide-grenier geek et tu retrouves les jeux après qui étaient en solde et tu les trouves au prix fort.
Bah oui.
Bon, je le dis pas pour Tagazu, parce que je sais que Tagazu, si un jour je lui demande de me trouver quelque chose, il va me le trouver, il va pas me.
Non,
faire,
je fais des échanges, beaucoup voilà, d'échanges. J'ai croisé échanges. Greg, que je salue, il avait un ami Bozelda qui était endommagé, je lui ai fait des échanges.
Il y en a, et c'est ce que je reproche à Kirby 54, bon bref, mais voilà, c'est clairement pour se faire mousser, c'est le concours de celui-là qui a la plus grande bite. Désolé pour le bite, mais je vais le redire, bite, et comme ça il sera placé trois fois. Et
il pète complètement les plombs.
Exactement, mais parce que ça me saoule. Et après, derrière, c'est que du business.
Compulsif,
parce que les mecs, c'est du petit business qu'ils font. Ils sont contents de gagner 3 sous sur eBay. Va trouver un boulot qui te rapporte de l'argent et on en reparlera après.
Oui, non, mais après, il a le droit de. Vas-y, François.
Moi, en tant que commerçant, toutes ces personnes qui font du. Qui rachètent dans l'hypermarché tous les produits en solde, en gros, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de très rapidement écouler le stock à bas prix pour que les jeux reprennent leur vraie valeur.
D'accord. Et ben justement, ben tiens, non, mais tiens, mais garde le micro, François et Geoff, pareil. On va en parler de ça parce qu'alors, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure. Alors, toi, François, tu bosses chez Micromania.
Tout à fait, oui.
Et toi, Geoff, t'as bossé pendant plusieurs années, 6 ans, 7 ans presque.
Ouais, j'ai bossé 6 ans chez Diffintel, ouais.
Yes. Et donc, alors, comment ça se passe? Par exemple, alors, pour les auditeurs, moi, je vais faire totalement, comme d'hab, le noob. Alors, vous inquiétez pas si je pose des questions un petit peu débiles, mais on est en droit de se poser des questions. Le jeu. Moi, j'ouvre une bouteille. Qu'est-ce qui t'arrive?
Il dit, pourquoi tu te justifies?
Non, mais oui, mais en gros, moi, j'ouvre une boutique demain. Le prix des jeux, on nous l'oblige, 69€, c'est le prix obligatoire. Ou, parce que souvent, tu as écrit prix minimum conseillé, tu vois. Est-ce que ça, on t'oblige? Est-ce qu'il y a une charte ou alors genre
un prix
demain...
minimum conseillé, c'est conseillé, donc c'est pas obligatoire.
Oui, mais non, mais ça veut dire que moi, demain, j'achète une palette de Call of, j'en sais rien, je peux le vendre à 5€ si j'en ai envie?
Alors en fait, selon les lois commerciales,
d'accord,
on ne peut pas revendre les produits moins chers qu'on les a achetés. Ça, c'est une loi commerciale qui s'appelle la loi Galant, qui à la base est faite pour éviter la revente à perte.
D'accord.
Sachant que les hypermarchés
donc, tu vois, déjà,
si peu cher, c'est parce
encadré.
Ils déduisent en plus du... ils vendent déjà à prix coûtant. Et en plus, ils déduisent ce qu'ils appellent les marges arrières, c'est-à-dire toutes les primes que peuvent leur donner les éditeurs pour certains nombres pour les ventes des jeux ou quoi que ce soit. Ils les déduisent aussi des jeux. Eux, leur but, le jeu n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour attirer les personnes.
C'est un produit d'appel.
C'est un produit d'appel. C'est-à-dire que ça, mettre sur les réseaux sociaux que leur nouveau Call of Duty est à 50€, ça va tourner partout, ça leur fera autant de pubs que s'ils doivent payer de la pub réellement.
D'accord, oui, voilà. Ok, je vois le dé. Ouais.
C'est une histoire de. C'est un attrait publicitaire. Ça va faire venir des gens qui vont aller à Carrefour acheter le Call of à 49 et ils vont dire bon, mais je fais les courses en même temps.
Exactement.
Et c'est ça l'intérêt. Et après,
et oui,
ils gagnent comme ça.
Et puis tu ressors avec un caddie alors qu'à la base, tu venais juste acheter ton Call of à 27
pour
au lieu
de. Carrefour Bègle. Pour avoir fait un peu le rayon jeu vidéo, c'est exactement ça. C'est que tu mets le prix au moins cher parce que tu sais que les gens vont venir chez toi et que derrière ils vont passer et ils vont passer acheter le Call of et ils vont passer dans le rayon,
ils vont
passer dans l'alimentaire, ils vont se prendre
salade,
une pizza pour
un
jouer
euro,
le soir,
voilà.
Une boisson et il va consommer dans le Carrefour dans un autre magasin.
Mais il y a dans l'hypermarché, de manière générale, le produit à prix cassé, les promos à prix cassé sont là pour attirer les gens. Sur les catalogues, on voit des tarifs très intéressants sur n'importe
quoi.
Hein.
En fait, pour
sur l'alimentaire, même sur l'alimentaire ou autre, les gens vont venir pour ça et vont acheter le reste.
Et
pour
eux, une fois que le client il a le pied dans le magasin, pour eux, c'est gagné. Quoi.
Mais carrément, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rayon jeux vidéo dans un hypermarché, c'est de la merde. Pour eux, c'est vraiment de la merde. Ça sert pas à grand chose, hormis à attirer du monde. Parce que le gros d'un hypermarché, c'est l'alimentaire. Donc le mec qui vient acheter son jeu, ils savent très bien qu'il va repartir potentiellement avec de la bouffe.
à boire, etc. etc. quoi.
C'est aussi pour ça qu'il vas-y.
Non, non, je lui enlève le micro.
Maintenant, Tagazu, c'est Marator.
C'est, voilà, c'est Marator. Non, je dis, c'est pour ça aussi, sûrement, que les vendeurs sont aussi mauvais. Je ne vais pas critiquer.
Attention, vous
pas.
Êtes en train de me critiquer, monsieur.
Voilà, non,
attention.
Mais de supermarché, de ceux qui sont rayons jeux vidéo. Eh bien, tu devais être un grand spécialiste.
Alors,
parce que moi,
voilà,
c'est rare que j'ai vu
c'est ce que
un
j'allais,
gars qui s'y connaît en jeux vidéo dans un rayon, dans un supermarché.
Parce que quand
vidéo.
J'étais à Auchan, hein, du coup, pour
oui, vas-y, nommer, vas-y.
Mais je faisais partie du rayon jeux vidéo à l'époque où ils ont développé l'hypergame, donc avec l'occasion et tout ça aussi qui rentrait en compte. Donc, ils avaient besoin d'un mec un peu expert dans le jeu vidéo aussi. Du coup, j'ai aidé à cette création-là. Sauf que ça rapporte que dalle. Un hypermarché, le rayon jeux vidéo, ça rapporte que dalle. Et le fait de payer un employé pour ça, ça ruine.
Ah ouais.
Donc clairement, ce qu'il leur fallait aussi, c'était un vendeur qui faisait un peu tout, quoi. Donc les DVD, la musique,
oui,
les
produits
bouquins,
culturels,
les machins,
quoi.
Tout ça. Et sauf que comme on était trois sur le rayon, bah, au bout d'un moment, j'étais en trop, quoi. Donc ils ont préféré garder bah, les anciens qui étaient là bien avant moi, évidemment. Et du coup, après, j'étais passé sur du jouet. Qui ne rapporte pas beaucoup plus non plus, finalement.
Yes, alors il y a deux messages à la suite qui sont hyper intéressants parce qu'ils vont de pair. Alors, comme tu l'as dit, voilà. Alors, c'est clair que tu vas pas à Auchan et à part peut-être des parents, mais nous, en tant que joueurs et geeks,
tu vas pas pour le conseil à la base.
Voilà, tu vas pas demander un conseil. Et justement, il y a Houille qui nous dit je me souviens de Mario Party 10 avec Amiibo sur Wii U, 49€ chez Leclerc, 75€ chez Micromania, faut pas déconner non plus. Et juste en dessous, tu as Geekmania qui nous dit les vendeurs sont plus conviviales dans les magasins spécialisés que dans les centres commerciaux. Est-ce que cette différence de prix, elle paye pas la qualité du service ?
Elle paye la qualité, elle paye les salaires, c'est sûr.
Elle paye les salaires,
elle fait de la marge.
Oui, mais...
Après, un magasin, faut savoir qu'un indépendant qui vit du jeu vidéo ou même Micromania, s'ils vendent à perte, il y a certaines boutiques, enfin le game, les boutiques game ont joué le jeu des prix agressifs avec les hypermarchés. Ils s'alignaient sur les prix des hypermarchés. Ça leur a pas trop réussi parce que si tu vends sans gagner d'argent, ben, ça s'appelle plus du commerce. C'est faut qu'il y ait autre chose à côté.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un hypermarché, ben forcément, il commande en grosse quantité toutes les grosses références, genre les Call of, les FIFA et tout. Et forcément, ils arrivent à tirer les prix vers le bas parce qu'ils commandent une énorme quantité.
Après, de ce côté-là, Micromania commande aussi en grosse
quantité. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'en termes de quantité, un hypermarché au national, hein, tu parles.
Ouais, mais c'est
justement pour
illustrer les soldes de Tagazu, c'est pas étonnant finalement qu'on voit du Persona soldé à 10€ parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les produits d'appel qui vont être les FIFA, les Call of Duty qui vont être à 50€ et là-dessus ils vont faire un coup de pub énorme, forcément les jeux de niche, tels qu'un RPG japonais comme Persona, ne va pas se vendre. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe ? T'as la boîte à 10€ pendant les soldes,
De toute façon, ils font des prix cassés sur les gros titres. Sur les gros titres, mais après le Persona, à mon avis, ils l'ont sorti à 70.
Bien
si
sûr.
Vous regardez le rayon d'un hypermarché, il y a 10% des plus gros jeux qui sont à prix cassé et le reste sont à prix normal.
Bien sûr.
Mais après.
Justement, c'est le produit d'appel, il faut que ça soit.
De manière
un gros
générale,
succès,
c'est, pour Micromania, c'est un choix. Il faut dire que c'est clair et net. Après, ils font plus des opérations. Ils se rattrapent plus sur des opérations commerciales pour que les gens puissent s'y retrouver au niveau tarif. En revendant un jeu, on a le jeu moins cher.
Oui,
sur des opérations commerciales, ils ont enchaîné récemment avec Far Cry, God of War et Beyond. Non, pas Beyond le nouveau David Cage,
Détroit. Ah, Détroit Become Human.
Le jeu, en revendant un jeu à peu près récent, on l'avait à 50 ans. À 30€, ça permettait, au magasin Micromania, se permet de créer du stock d'occasion. C'est très important d'avoir.
Et tu as le droit d'être transparent là-dessus ou pas ?
Je sais pas trop d'informations non plus pour être assez transparent.
Ok, au niveau des reprises, comment ça se passe ? Par exemple, le jeu. Alors, c'est terrible parce que moi, je vais à Auchan. Le jeu, je l'achète 55€. Je te le ramène de suite. Toi, tu le vends 59, tu me le reprends 30€. Et ensuite, tu le revends 55.
Alors,
pareil.
En fait, souvent, il y a une règle. Qu'on appelle la règle des trois tiers. Ça, c'est la règle pour se baser. Il y a le prix du jeu en neuf, c'est repris un tiers, c'est revendu deux tiers. Donc en gros, celui qui l'achète d'occasion gagne un tiers par rapport au neuf. Celui qui revend, il perd les deux tiers, mais bon, après, s'il revend, c'est qu'il a le choix de revendre.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ça reste quand même. Et après, le magasin fait un tiers de marge en gros sur son produit.
Ah ouais, sachant que finalement, tu t'en prends une petite quand même, quoi.
Ben, y a, c'est le.
C'est le jeu. Après, c'est le jeu. Voilà. Ouais. C'est
là que je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, un magasin ne tient que grâce à l'occasion. Donc, forcément. Oui. C'est pour ça que, comme on en parlait à l'instant, et c'est ce que je disais, c'est quand on voit des projets et des plans comme Micromania de faire des bonus de reprise sur des jeux récents comme Détroit, God of War et autres, c'est parce qu'il faut de la rotation. C'est là-dessus qu'ils vont attirer le client, qu'ils vont faire des marges. Parce que sur le neuf, on le sait, et moi je viens de l'indépendant, donc en plus de ça, les marges, on passait notre temps à essayer de les négocier, mais c'était pas possible parce qu'on gérait pas assez de volume. C'est très compliqué, donc du coup on se retrouve pris entre les taux d'Amazon et de la grande distribution qui fait des jeux à des prix mais qui sont limite, enfin pas raisonnables, parce que nous c'est les prix auxquels on les paye.
Ah oui, non mais ça, ça c'est un truc de ouf, hein, voilà. D'ailleurs, on va en
du
parler.
Du coup, on est pris un peu dans cet étau-là, il y a une enclave en fait, c'est que on se retrouve à vouloir faire plaisir aux clients, à lui proposer un jeu qui est presque au prix de la GD, de la grande distribution. Sauf que nous, on fait du conseil client, c'est ça aussi qui nous défendait, c'est qu'on avait un côté artisanal, le commerce de proximité, il se défend comme ça aussi.
Bien sûr.
C'est que nous, quand je dis Diffintel, ça a 20 ans, c'est une histoire, c'est un magasin qui a 20 ans, c'est un magasin qui vend aussi de l'humain, c'est pas du libre-service assisté, c'est un magasin qui, quand un client rentre, on va pas se dire, il faut qu'il reparte avec un jeu, non, il faut qu'il reparte avec un jeu qu'il va apprécier.
Oui, et puis bah, s'il peut passer un bon moment et revenir, enfin ouais. Tu vois, c'est couillon, et... mais...
Je vais sortir une anecdote parce que bon, j'en ai plein, mais c'est vrai qu'il y en a
surtout. Ah, des dossiers.
Ah ouais, non, mais il y en a une qui me plaît pas mal.
Des dossiers.
Je crois que je travaillais chez Diffintel depuis peut-être un an. Je crois que la plus belle aventure qui me soit arrivée, elle est très simple, hein, mais j'ai un jeune joueur qui avait peut-être 8 ans qui est rentré pour m'acheter un FIFA. Bon, comme beaucoup de joueurs le font à cet âge-là, et même après. Et il est reparti avec un Shadow of the Colossus. Et ça, c'est mon travail de conseiller, mais surtout de lui faire briller les yeux, parce que c'est vrai que. Il partait avec un jeu de foot, c'était fait, la vente était faite, mais la valeur ajoutée pour moi, c'était de lui vendre un jeu que j'apprécie aussi, mais qui pourrait lui plaire également. Et il est revenu après, genre peut-être 3-4 mois, il m'a dit, bon bah c'était...
C'est de la merde, la merde.
Et depuis, je suis sûr qu'il s'est acheté la suite, genre Last Guardian et tout ça, et là, je suis content. Ça, c'est un beau métier pour ça, pour ce genre de choses.
La question étant, est-ce qu'il a acheté le Shadow of Colossus en plus du FIFA ou à la place?
C'était pas une vente supplétive, non, il a acheté à la place, c'est ça qui est encore plus fort.
D'ailleurs on va en parler de ça, et sur le chat ça s'embrouille un peu là, sur le fait que apparemment, voilà, bon, c'est Ouille qui aime bien un petit peu provoquer le débat, qui nous dit que les mecs sont vendeurs et pas passionnés, mais c'est faux.
Complètement faux.
Il faut pas,
on peut pas généraliser.
Voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ah oui.
Après si ceux qui travaillent dans les magasins de jeux, s'ils sont que passionnés et pas vendeurs, il travaille pas longtemps dans un magasin.
Alors, un métier aussi. Hein,
eh ben, justement, j'en sais quelque chose parce que moi, j'ai bossé pendant 4 ans à la Fnac et moi, là-bas, je suis charpentier, je suis pas du tout vendeur. Et en fait, moi, Mélanie Zezette, donc ma femme, travaillait au café de la Fnac, au Columbus Café. Et voilà, en fait, ses clients du rayon jeux vidéo venaient boire des cafés. Puis de fil en aiguille, mon copain, il fait une émission sur les jeux vidéo, il est calé et tout. Mais il a déjà fait de la vente, non. Et puis une année, il leur a manqué quelqu'un. Et donc j'ai fait cette année-là, j'ai bossé un mois et demi pendant le rush de Noël. Quand t'as pas fait de vente, et que, alors après le jeu vidéo, voilà, on s'y connaît quand même pas mal, on va pas charrier, mais je suis pas vendeur. J'ai tenu 4 ans, mais à la fin j'en pouvais plus. Parce que la vente, c'est pas genre tu dis juste, tu vas voir c'est super et tout, c'est hyper compliqué. Mogmo, toi, c'est ton métier au quotidien. Bah, du coup, toi, Wayne, oui, t'étais plus dans le commerce comme ça, t'es plus dans l'immobilier, mais la vente, François, voilà,
je sais que c'est mon truc, et que si je suis plus à Micromania, je serai toujours dans le commerce.
Oui.
Parce que c'est ce que j'aime, j'y suis depuis le début.
Ah, tu vois.
Et après, malheureusement, c'est pas le cas de peut-être de tous ceux qui travaillent à Micromania. Ceux qui ont des mauvaises expériences, c'est souvent qu'ils tombent sur des personnes qui sont pas là pour faire plaisir aux clients.
Et c'est toi, de la vente, c'est tes études en fait, c'est,
oui, mes études.
D'accord. Et toi, Geoff aussi, t'es dans le...
Non, pas du tout. Moi, j'ai fait un master de com, donc rien à voir. En fait, j'ai commencé à travailler chez Diffintel, j'étais encore étudiant. Donc c'était mon gagne-pain en master, quoi. Et puis du coup, j'ai poursuivi parce que c'est vrai que le magasin m'a donné envie de rester. Et puis j'ai évolué, et surtout, on m'a donné des responsabilités en plus. J'ai pu gérer la com du magasin et ça, c'était plaisant, ouais. C'était plaisant.
Non, carrément, parce que par exemple, Mogmo, on prend l'exemple, mais toi, t'es dans la vente depuis combien de temps?
Oula.
Et donc il veut arrêter demain, c'est ce qu'il m'a dit en rentrée.
Oui, c'est un peu ça, ouais. Moi le commerce en général, j'en ai marre. Par contre, pour me destiner toujours à quelque chose de culturel, parce que j'aime toujours le jeu vidéo, j'aime toujours le manga, la BD, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le commerce, j'en ai ma dose un peu, malgré tout. Et puis, en fait, je me suis souvent considéré comme un conseiller et plus qu'un vendeur.
Tu vois. D'accord, ouais, je vois.
Et c'est vrai que maintenant, ouais, j'ai bien envie de tourner la page si je le peux. Hein,
mais suivant, c'est pas forcément facile, mais... suivant les enseignes, je vois la Fnac, voilà, surtout en période de Noël et tout, ils te mettent un peu la pression. Ils veulent pas te conseiller, ils veulent des vendeurs, quoi.
Ah, mais carrément.
Non, et puis surtout, le comportement des acheteurs a beaucoup changé. C'est-à-dire que
ça a beaucoup changé. Les retours que tu peux avoir avec des clients, c'est pas forcément les mêmes que tu pouvais avoir avant. Les discussions que tu peux avoir avec certains, voilà. Mmh.
Disons que ce qu'il faut éviter dans un commerce, c'est que les personnes viennent, alors la Fnac aussi, pour prendre des renseignements pour acheter sur Amazon.
Bah, oui, alors ça c'est terrible.
Et notre travail, c'est que les gens, ils veulent acheter ce produit, ils veulent des renseignements. Et si on est suffisamment sympa, si on les accroche suffisamment, eh bien ils mettront 10 euros de plus, mais ils le prendront chez nous parce qu'ils nous ont trouvé sympa. Et qu'ils le repartiront avec le produit directement. Et au final, notre but, c'est pas de placer un produit qui va lui déplaire. C'est clairement que non. Mais c'est que tant qu'à l'acheter, autant qu'il achète chez nous. Et s'il l'achète chez nous, on ne mettra jamais le couteau sous la gorge. Mais que le talent du vendeur fasse que
l'achète chez nous. Tout simplement. C'est un talent parce que finalement c'est c'est un métier de toute façon la vente.
Ah oui, carrément.
Et ouais, justement,
je me permets, mais c'est vrai que surtout qu'il faut pas oublier qu'on vend des jeux. Enfin, moi j'en ai vendu et vous en vendez encore, mais le jeu vidéo ça reste quand même un produit miracle, c'est de vendre du rêve aussi. Enfin, moi quand j'avais les enfants qui venaient me voir, je me disais toujours, j'ai peut-être un des rares métiers qui existent où tu peux vendre un univers. Enfin. Voilà, c'est une promesse de genre. Tu vends un jeu et tu lui dis à cet enfant ou même un ado ou un adulte, peu importe, mais vous allez plonger dans le Far West avec Red Dead Redemption, vous allez partir dans une utopie, dans celui-ci. Enfin, c'est ça qui est magique. Enfin,
ah, mais complètement.
Ça reste un sacré miracle. Donc, il faut garder à l'esprit ça. Et c'est vrai que la grande distribution, là où des clients ont pu avoir une mauvaise expérience parce qu'ils sont tombés sur des vendeurs un peu désenchantés parce qu'ils doivent gérer du volume,
ils sont pas là pour ça aussi.
Voilà, ils sont pas là pour le seul truc où il y a vraiment du conseil en hypermarché, parce que pour en avoir fait un petit peu, c'est vraiment dès que c'est des produits très technologiques, du PC,
des trucs un peu de pointe,
des trucs où là les personnes sont là pour vendre, mais en jeu vidéo, les gens ils sont censés savoir ce qu'ils veulent. Et
surtout aujourd'hui
et et donc du coup ils doivent venir avec voir le produit, l'acheter, et s'ils demandent, à la limite la question c'est est-ce que vous avez ça, oui tenez voilà. Ça va pas aller plus...
et encore que hein, parce que maintenant dans un hypermarché si tu trouves un vendeur au rayon jeux vidéo c'est miraculeux quoi.
Oui c'est pas faux, ouais. Bah, d'ailleurs j'embrasse le vendeur de Auchan Bouya qui doit avoir 55 ans le gars, et le pauvre
il a pas tant que ça, et je l'embrasse également parce que c'est un ancien collègue du coup.
Je l'embrasse, c'est mon père.
Non, c'est pas mon père.
Mais il est sympa en plus, ce gars.
Il est adorable.
Il est sympa, mais Dieu merci, il a un ordinateur, quoi. Enfin, voilà,
ah, ben il y connaît rien en jeu vidéo. Ah oui, complètement. C'est un gros musicos, enfin voilà, c'est un DJ même.
Il est très gentil.
Il connaît beaucoup en musique, mais par contre, en jeu vidéo, c'est pas son kiff. Ouais.
Mais bon, je vais me faire l'avocat du diable. Mais,
on est là, on a.
Ouais,
on est...
le problème avec les magasins spécialisés, c'est la différence qui est quand même...
Et j'adore parce qu'en fait, à côté de lui, à sa gauche, pour les auditeurs qui nous écoutent en voiture ou chez eux, sous la douche ou quoi, François, il est à sa gauche, et il travaille à Micromania, et vous connaissez depuis 15 ans au moins. Oui. Et quand t'as dit, alors moi je me fais l'avocat du diable, François, il t'a jeté un regard, mon pauvre, on a un truc de malade.
Qu'est-ce qu'il va dire encore ce connard ?
Mais tellement, quoi. Tu en l'air, complet,
en direct à la radio.
Bravo, l'infernal, bravo.
Bientôt le divorce
avec François, on va divorcer. Non, c'est des fois sur certains jeux, je trouve qu'il y a une grosse différence. Je comprends de mettre.
Passe-lui ton micro au pire. Qui s'embrouille un peu là.
Voilà, on va s'embrouiller, mais je comprends et voilà les 10 euros, tu vois, les 15 euros supplémentaires, et encore ça fait un peu
parfois
mal.
Parfois il y a plus. Hein.
Mais quand il y a plus, là je commence à.
Bah après, quand il y a plus. Pourquoi il y a plus ? Parce que les hypermarchés tirent les prix au maximum vers le bas. S'il y a pas... En fait, tu remarqueras, les jeux ne sont pas plus chers qu'en téléchargement.
Oui.
Donc, c'est le prix conseillé par l'éditeur. Le Micromania s'engage toujours à faire ça. Ils vendent d'autres façons. Après, de manière générale...
Surtout que maintenant, le placement des Micromania est souvent dans les... Enfin,
dans les hypermarchés.
À part le tien, c'est dans les supermarchés. Donc, tu n'as même pas 10 mètres à faire.
C'est ça.
Et tu économises 30 euros en faisant 10 mètres.
Oui,
c'est ça qui est affolant. Et 30 euros, et là je trouve ça énorme. Quand c'est 10 euros, moi je suis d'accord, les données.
Après,
10, 15 euros ça, pour le service et tout, ça le mérite. Et puis en plus, les gars étant sympas, je préfère avoir un magasin où tu te sens un peu pas chez toi, mais où tu es un petit peu un client, on va pas dire privilégié. Mais
comme chez Diffintel par exemple.
Hein,
comme chez Diffintel, où, voilà, où moi j'étais content d'y aller, mais tu te poses un peu, tu prends un petit café.
Mais à Micromania aussi, tu peux avoir ce sentiment-là. Moi je sais qu'à Sainte-Eulalie, à une époque, j'y allais souvent et j'avais pris l'habitude, même si c'était un peu plus cher, d'y aller parce que les gars, je trouvais l'équipe hyper sympa. Mais voilà, le problème c'est que ça change aussi beaucoup de tête souvent et oui, que ça tourne, il y a un super turnover et que tu reconnais plus personne. Et donc après, j'ai plus eu envie d'y aller parce qu'il n'y avait plus l'équipe que je connaissais, à qui je disais bonjour et tout.
Mais après, moi, j'en voudrais jamais un client d'avoir acheté un jeu plus moins cher dans un autre hypermarché. Si c'est le jeu. Hein. C'est tant qu'il revend chez moi.
Oui, voilà. Après,
c'est non, ça. Mais voilà. Non, façon de dire que.
C'est l'idée.
Les gens sont, ils achètent les jeux vraiment où ils veulent, s'ils le trouvent moins cher. Après, il y a pas mal de jeux auxquels on est au même tarif. Il y a des jeux sur lesquels parfois on a des offres très intéressantes. Micromania, je les trouve quand même bien placés en offre de console.
Oui, c'est vrai.
Les gens doivent acheter, quand on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs.
Bah, ils font des offres, genre, on en parle des fois souvent à l'antenne, de oui, rachat de console pour changer ta console. Par exemple, là, il y avait les offres PS4 qui prenaient ta PS4 pour acheter une PS4 Pro qui était intéressante. Franchement, il n'y a que qui font ça.
Et bah, d'ailleurs,
il y a bien plus que eux aussi. C'est ça qui.
Oui, voilà, il n'y a plus que eux. Par exemple, les indés, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça sur les consoles.
Ah ouais, non, complètement. Ce genre de programme, ce que je pourrais appeler vulgairement prime à la casse, c'est vrai que c'est pas un truc chez un indépendant que tu peux voir, effectivement. Parce que les marges, déjà, sont encore une fois plus ridicules encore que sur les jeux, ce qui est difficile.
Ah oui, sur les consoles, c'est.
Sur une console,
ridicule,
tu dois gagner 40 centimes. Donc, évidemment, t'as tout intérêt. Quand tu vends une console, et je me rappelle, quand la PS4 est sortie, c'était en pleine folie de Noël. Sony n'avait pas fait assez de quantité, donc c'était horrible. Et je me rappelle, on était obligé de refuser aux clients qui voulaient acheter que la console sans jeu de leur vendre, en fait. Alors évidemment, on pouvait pas dire non parce que c'est interdit de refuser de vendre, mais on allait forcément devoir favoriser quelqu'un qui allait acheter avec une manette supplémentaire, des jeux avec, parce que on ne gagnait strictement rien dessus, quoi. Et c'est ça qui est très, très compliqué
mais
à gérer.
Là, attends, je fais juste une parenthèse. C'est Isa, c'est ma cousine en fait, qui nous écoute des Sables d'Olonne et qui parlait de faire une association sur de ça, de jeux vidéo et tout. En fait, il en existe plein, ma poulette. Vraiment plein.
Oui, on en fait tous partie.
Mais voilà, tout le monde en fait ça, partie, ouais. Mais pas les mêmes, mais tout mais le monde fait un petit peu partie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça.
Oui, Geoff, garde le micro parce que bon, j'ai attaqué un peu Micromania, mais je vais attaquer un petit peu les magasins indépendants. Le prix du rétro gaming.
Ah oui.
Voilà, parlons un petit peu du prix rétro gaming parce qu'il n'y en a pas à Micromania, ils ne sont pas les sous. Mais quand il y a eu l'explosion du rétro gaming, il y a eu des prix. Alors là, les RGB ne vont pas mentir, mais on a tous eu des expériences un peu traumatisantes en voyant certains prix, quoi. Et donc,
ouais, mais regarde, je peux te renvoyer à une chose, c'est que sur Internet, nous on a toujours été en dessous des prix pratiqués sur Price Minister, eBay par exemple.
Oui.
Parce que là, c'est juste de la folie. Je sais même pas s'il y a vraiment des gens qui mettent le prix, tellement que c'est aberrant. Alors, sous prétexte qu'il est mint, comme ils disent, les coins, piquant, parfait. Ok, le collectionneur qui va vraiment vouloir quelque chose de parfait va peut-être l'acheter, mais nous, on avait. Alors après, on a investi dans des vitrines parce qu'au départ, on n'avait pas beaucoup de place. Le rétro a tellement été galopant, tellement voulu en acheter qu'on a acheté plus de vitrines. On a mis des jeux en avant, c'est des beaux jeux en plus. À l'époque, les cartouches, ça vendait quand même du rêve dès le départ. Quand on voit une galette aujourd'hui, un Blu-ray, bon, sérigraphie apparente, voilà, ça, c'est pas ça. C'est ce que Nintendo d'ailleurs a compris avec la Switch, hein, c'est qu'ils vendent encore aujourd'hui de la valeur ajoutée avec l'esthétique, le graphisme. Et c'est ce qui a disparu un peu du reste. Aujourd'hui, moi, quand j'étais au magasin encore sur les dernières années, et que le rétro avait pris une mode incroyable, avec le joueur du grenier, tous ces youtubeurs qui ont favorisé tout ça, nous, on a toujours fait en sorte déjà d'essayer de garder un peu nos jeux parce que les gens arrivaient et voulaient tout de suite les acheter une fois rentrés dans le magasin. Et nous, c'était comme un peu le musée du jeu vidéo aussi. On avait envie de les garder en vitrine pour dire, regardez, on est un peu la taverne du jeu vidéo. On a des belles pièces. Secret of Mana Super NES vient de rentrer. Bon, ça faisait plaisir de l'avoir quelques semaines. Non, il restait deux jours, même s'il était cher. Mais on n'a pas été trop gourmand pour autant. On était toujours en dessous, et ça, on y veillait au grain, à être en tout cas même un peu, si ce n'est qu'un peu, des offres de prix sur Internet.
Le problème principal du rétro gaming, c'est qu'il n'y a pas de création de stock. C'est-à-dire que le stock est fini et, et un collectionneur qui achète fait qu'augmenter le tarif de tout ce qui reste.
Oui, c'est vrai. Moi, il y en a dans
parce
la nature.
Parce
oui, c'est l'idée.
Plus il le garde et si les jeux tournaient comme c'est le cas, on va dire, sur le stock du PS3 ou du PS4 d'occasion, les gens revendent. Mais les gens qui achètent du rétro, c'est extrêmement rare qu'ils revendent 10 ans après.
Ouais. J'ai deux questions vite fait. Il y en a une sur le chat, faut que je la pose, sinon elle va disparaître dans les nimbes.
J'en ai une aussi après.
Hein. Yes. Est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent des jeux PC en boutique? On nous demande. C'est Jean-François qui demande ça.
Non, c'est fini. C'est fini pour la simple
et bonne
raison.
Tout le monde passe par Steam
que la clé, les clés en fait interdisent limite la revente. On peut plus réactiver un jeu une fois que la clé a été utilisée.
Alors pas forcément pas la... d'occasion, hein, mais je veux dire en boutique.
En neuf, oui, après.
Un petit peu, mais très peu. On vend plus en valeur des cartes Steam.
Ah
des
voilà,
PC.
Ouais.
Par contre, moi je me bats dans mon magasin. Certains micro, gros micromania le font, mais pour avoir la, ce qu'on appelle la gamme de jeux Just for Game. Ouais. Qui proposent des jeux à 10-15 euros
bon alors,
qui sont parfois un peu plus vieux, qui vont oui. avoir
mais y a 3-4
ans. Mais
tu peux avoir des Skyrim, tu peux avoir des, y a pas mal
ouais,
de trucs.
Il
hein.
y a du Skyrim, il y a du Tomb Raider, il y a du Borderlands.
Il y a aussi quand... pas mal de, d'objets cachés, des trucs, il y a à boire et à manger.
Oui, ouais, et après, il y a des ouais. trucs pas top, mais après, il suffit de savoir sélectionner quand même. Et quand on commande. Et nous, les... et là justement, c'est là qu'on peut faire notre travail de vendeur quand quelqu'un demande un jeu PC. Parce que en fait, tous ceux qui achètent des jeux PC. Ils connaissent pas grand chose en jeu PC, en jeu. Ça, nous, on le voit sur en magasin. Dire ceux qui connaissent les jeux PC, ils achètent plus en magasin, clair et net. Ils, mais ceux qui connaissent pas, ils viennent encore en boutique acheter des jeux PC. Et justement, quand ils demandent, vous avez un jeu qui, un jeu d'aventure, un jeu de stratégie, un monsieur, un papy qui voulait un jeu de stratégie. Mais il est parti avec Shogun médiéval, il est revenu, il était très content parce que c'était ce qu'il cherchait.
Mais voilà, finalement, du coup, il a eu le conseil qu'il voulait parce que sinon, il aurait été peut-être un peu paumé devant Steam parce que tu te retrouves devant un catalogue.
Bah en fait, voilà. C'est des gens, ils ne l'auraient pas su chercher ou chercher.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais, et puis surtout, ce qui a rendu compliqué, enfin en tout cas chez nous, en indépendance, ce qui avait rendu compliqué la vente des jeux PC neufs, c'était aussi le côté hardware en fait. La machine du client, savoir ce qu'il a, lui parfois même savait pas trop ce qu'il avait.
Oui, 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 c'est vrai.
Savoir
ça.
Si ça va tourner, donc du coup forcément tu l'encourages à télécharger la démo du jeu pour voir si elle tourne bien. Et là du coup, du moment qu'il a fait le premier pas pour aller chercher la démo, il va forcément limite acheter son jeu en démat.
Ça c'est un problème qu'on on est obligé chaque fois qu'une personne a à dire achète un jeu PC, lui dire attention, s'il fonctionne pas sur votre ordinateur, on ne pourra pas vous le changer.
Une fois ouvert, c'est fini. Ouais.
Ah, c'est one shot.
Après c'est pour ça que Just for Game, si les personnes risquent 10-15 euros, ça va.
C'est pour ça qu'en général... Non, mais il ne faut pas que je dise ça à la radio. C'est les jeux qui sont le moins protégés. Enfin, voilà, ils n'ont même pas de truc. Hein. C'est les jeux qui partent par carton. Ils font partie de du truc de perte complet, quoi.
Oui.
Ah oui, complet. Mm-hmm. Voilà. J'aurais
t'avais
dû me censurer.
Pas une deuxième question, du coup.
Vas-y, pose la tienne.
Ouais, moi, j'avais une question par rapport au démat, justement. Mm-hmm. Est-ce que ça n'a pas un peu changé la donne et fait perdre un peu d'argent? Alors, je sais que vous... Alors, Micromania, Defintel, je ne sais pas si vous vendez des cartes...
Non, bah justement, j'allais poser la question à François parce que pour moi, je trouvais que c'était un peu se tirer une balle dans le pied de vendre les fameux coupons ou les tickets
mais
avec les codes.
Moi, c'était plus par rapport au stock d'occasion aussi, parce que du coup, il n'y a plus de retour.
Ah, c'est ça que je voulais te demander aussi. Tiens,
Le stock, nous, on le voit sur le stock d'occasion. Là où c'est le plus frappant, c'est sur Xbox One, qui est une console qui encourage beaucoup plus se dématérialiser que la PlayStation 4. Peut-être parce que les clients ont plus d'habitude, enfin bref. Mmh. Et du coup, c'est plus difficile d'avoir du stock sur Xbox One que sur PS4. Sur PS4, de manière générale, on a quand même beaucoup de stocks d'occasion, justement, parce qu'on a aussi des offres de reprise et que beaucoup de gens continuent à nous ramener. D'ailleurs, les gens sont très souvent surpris sur les montants des reprises, mais agréablement. Ils disent « Ah, ben je pensais qu'on m'avait dit que Micromania, 15 jeux, c'était 2 euros. » Ben voilà, ils ont des montants quand même qui sont assez importants. Mais,
Et d'ailleurs, comment ça se passe à la reprise? C'est, vous avez un Argus, un truc comme ça?
L'Argus est complètement décidé informatiquement. Nous, on peut absolument rien changer.
On a eu la discussion avec Geoff en fait, à la maison, enfin, bref, et on va en parler justement de ça.
Et en fait, techniquement, nous, c'est, je sais qu'au niveau de la boîte, c'est carrément c'est décidé. Alors, il y a des trucs standards. Le jeu sera 70, ça va être repris 35 le jour même. C'est parfois 40 sur des gros titres.
Le jour même?
Le jour même, ouais.
En fait, et vous rendez compte, chers auditeurs, c'est quand même le prix du blister. Le jeu, tu l'achètes 70 euros, t'enlèves le blister, il vaut plus que 35. Même si je le fais sous tes yeux.
Après, même s'il ramène le blister, si le monsieur a acheté.
J'ai ramené le blister avec et tout.
Même avec le blister, il sera repris 35 du fait qu'un magasin n'a pas le droit d'acheter du stock neuf.
Ouais, il doit être ouvert pour être vendu.
Si quelqu'un nous ramène un jeu blister, on le débliste.
Ah, d'accord, ok. Alors ça dépend peut-être des enseignes. Ah ben, nous dis pas.
Non, mais j'écoute parce que moi, ayant travaillé pendant 2 ans en tant qu'acheteur chez EasyCash, j'écoute attentivement pour pouvoir répondre après.
Ah, ben oui, mais tu sais qu'il risque un quart d'heure d'émission.
C'est pas grave, je répondrai dans les 5 dernières minutes.
Il va lancer une cartouche.
Et donc, du coup, alors c'était quoi, rappelle-moi la question ? Non, c'était sur les jeux.
Sur les reprises, ouais.
Les reprises. Oui. Après, le tarif, c'est un algorithme, on va dire, qui, un jeu, s'il se vend, il continue à rester à tarif haut. Donc on le voit notamment sur des jeux DS. Vous prenez un Mario Kart DS, il est vendu.
Il est introuvable, quoi.
Toujours. Et on n'en a pas souvent qui rentre en stock. Et quand on rentre, il part très vite. Donc l'algorithme, lui, comprend que cette référence, on peut la mettre cher. Par contre, quand un client nous le ramène et un Mario Kart et qu'on lui dit c'est 20 euros, il fait ah ouais, quand même. On lui reprend 20 euros, il est content. Donc oui. Quelque part, il y gagne. Le revendeur et celui qui revend est gagnant aussi. Et après, si les jeux se vendent bien, ils restent à tarif. S'ils ne se vendent pas, ils baissent, tout simplement. Le tarif reprise baisse encore plus. Et le tarif de vente baisse aussi. Et, voilà. Et c'est automatique, en fait. Et yes. Régulièrement, on a des changements de prix sur le neuf et sur le. Sur les produits, sur le neuf, mais sur les jeux d'occasion.
Moi, j'ai une question qui me taraude. C'est genre les FIFA, les PES, hein, ça marche aussi. C'est genre des jeux, même à la Fnac, nous, on les refusait. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce stock? Ils sont détruits? On les enterre dans le désert de la dune du Pilat?
Ça sert d'épouvantail pour les oiseaux dans les arbres après.
Non, mais sans déconner. Qu'est-ce
que
tu fais?
On les reprenait même plus à la fin.
Mais justement.
On l'englobait dans le prix de rachat, mais on le rachetait même pas. Enfin.
Et ils sont quoi ces jeux? Ils sont détruits? Tu les renvoies chez l'éditeur?
On avait des stocks, on gardait les boîtes quand on avait des boîtes cassées.
D'accord,
boîtes,
ouais,
okay. On gardait les boîtes et tout le reste ça partait à
la
poubelle.
Ah, la poubelle, carrément. Tu te rends compte, le jeu qui coûtait quand même 70 euros il y a quelques mois.
En fait, moi pour la petite expérience, quand un FIFA sortait, par exemple il sort le 1er juillet, si on te le ramène le 7 juillet, on te le reprend encore bien. Si on te le ramène en août, on te le reprend un peu moins bien. Et dès que t'arrives septembre, octobre, et ben là, bam, voilà. Clairement, c'était ça.
Oui, surtout que c'est cyclique, en fait.
On voit que ça baisse quand même un peu moins.
Ouais, non, parce que FIFA, pour le coup, juste parce que. Après, je vais rebondir sur les reprises. Hein, c'est intéressant, je pense, de comparer avec l'indépendant. Mais sur FIFA, c'est cyclique, en fait. Comme les baisses de prix ont lieu chaque année au même moment. Donc, si t'es consommateur, je pense qu'il faut être malin. C'est à chaque fois au niveau de l'été. Parce qu'en gros, il va passer à 30 euros en général au mois de juin-juillet. Parce qu'effectivement, à la rentrée, les précommandes sont déjà en route.
Oui, ok.
Et là, c'est déjà. Après, une fois que tu attends la rentrée, évidemment, ton jeu ne vaut plus rien.
FIFA, c'est 6 mois. Tu joues 6 mois et après, il faut le revendre.
Sinon, et là encore, avec la Coupe du Monde, ils ont pu jouer avec la mise à jour.
Ils ont pu jouer.
Faut pas acheter des jeux vidéo dans le but de s'enrichir en les revendant. Ou alors, faut s'appeler Tagazou.
Non, ou alors, faut faire du rétro.
C'est ce qui marche très bien. Hein. J'ai ma maison aux Bahamas.
Ah, c'est ce qu'il a connu.
J'ai un compte au Caïman, grâce aux soldes, merci les soldes.
Alors il y a plein de choses, parce que alors ça réagit beaucoup, on reviendra ensuite sur la compacte que vous voulez faire. Sur le chat, il y a Ouille qui nous dit, j'aimerais qu'on m'explique, alors c'est pour toi François, je suis navré, mais voilà.
Vas-y François.
Il dit, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi quand j'ai précommandé mon Action Verge Collector chez Micromania, je reçois un message pour me dire qu'il est dispo dans le magasin, et une fois arrivé sur place, mon jeu était sorti de la boîte cartonnée pour être mis en rayon. Alors que c'était le jeu que j'avais préco.
Alors c'est un problème qu'on a au magasin, c'est-à-dire que à cause des nouvelles lois sur la protection des personnes, on n'a plus du tout accès aux données des gens. C'est-à-dire quand quelqu'un réserve un jeu, on nous l'envoie, mais on n'a pas vraiment. Là, je pense que c'est un problème qu'il va falloir qu'il soit réglé très rapidement. C'est-à-dire qu'on ait une info que sur le stock qu'on reçoit, tant de stock est réservé à des réservations et donc du coup ne doivent pas être ouverts.
D'accord. Ok.
Mais je pense que là c'est une erreur parce que moi je réserve souvent des figurines pop dans le Micromania de Bègle parce qu'ils sont juste à côté de chez moi et enfin le mec a jamais pris la figurine pop en rayon. Enfin, il est toujours mis derrière ou il est toujours.
Après c'est.
Je pense que là c'était peut-être ça a joué de malchance je pense.
C'est pas le Micromania qui a des c'est pas Micromania de manière générale qui a décidé de faire comme ça, c'est que il a dû le recevoir une nouveauté, il l'a mis en vente, il a pas
fait gaffe,
il a pas fait
attention
de voir s'il y avait des réservations.
C'est une erreur
plus humaine que due à l'entreprise.
Et pourquoi justement vous les ouvrez les jeux
pour éviter le vol?
Pour éviter le vol. Principalement pour les vider et éviter le vol. Uniquement. S'il y avait pas de voleurs, tous les jeux seraient emballés et tout le monde aurait ses jeux emballés. Mais malheureusement, là encore, ceux qui.
Ça m'a fait halluciner chez Cultura. Cultura, t'arrives et en fait, à la caisse, ils prennent la boîte et ils mettent un CD dedans. Il est neuf, hein. Mais en fait, toutes les boîtes sont vides. Et t'es obligé d'aller à l'accueil, il est pas sous blister. Et en fait, ils ont. J'ai horreur de ça, putain. Tu sais, le classeur où tu mets tes disques là, tu sais, qui traîne dans la bagnole où il y a du tabac dedans, de la bière et tout là. Bah, c'est un peu le même principe, tu vois.
Bah, c'est tellement simple aujourd'hui enfin. Bref, c'est comme le téléchargement illégal, mais c'est tellement simple de faire sauter une boîte anti-vol de jeux vidéo.
Oui, enfin.
C'est pas le risque. Après, de manière générale, je sais que ça déplaît à certaines personnes. Au bout d'un moment, ils le savent,
chez Diffintel, c'est des petits trucs en bois, quoi, où ils sont tous collés et tout, c'est un truc de ouf. Hein.
Les magasins n'ont pas le choix, ou alors il faudrait mettre tout sous vitrine, mais après, les clients prennent plus en rayon. Ça demande une structure différente.
Plus c'est en vitrine, plus tu perds l'achat d'impulsion aussi. Le mec qui prend le jeu, il regarde.
Il faut faire l'effort de demander au gars.
et un vendeur quoi.
Après, moi je le vois très bien dans mon magasin, j'ai énormément de ventes assistées, donc c'est-à-dire des produits qui sont présents en rayon juste en présentation, et t'es obligé de faire appel à un vendeur. Donc déjà faut que le vendeur soit dispo, ce qui est pas toujours le cas.
Oui, ah ouais, c'est pas con ça.
T'es
hein.
pas tout seul en magasin, donc il y a
plein
de clients.
Ah oui, non mais carrément.
Et du coup, bah, forcément, tu perds aussi en vente potentiellement le mec qui voulait l'acheter, il attend, bon, mais ça le saoule, il se barre. Quoi.
Ouais.
Donc,
ouais.
C'est le risque aussi. Quoi.
Tiens, François, j'ai encore une autre question pour toi. C'est Geekmania qui demande quand ton magasin va réouvrir tout beau, tout neuf.
Alors, on devait réouvrir ce samedi 7, mais malheureusement, il y a une. Malheureusement, les travaux ont été légèrement décalés. Ça serait sûrement mercredi ou jeudi prochain.
Yes, on sera le 10.
Le 10
loin.
À peu près, ouais. Voilà, tout à fait. Donc, personnellement, il me tarde énormément parce que c'est mon nouveau lieu de travail, toujours intéressant.
Parce que du coup, il se passe quoi? Il y a des gros travaux?
Alors, ils ont re-agencé le magasin, rallongé le magasin. On va passer plus du niveau design à un Micromania, justement.
Yes, alors.
Et du coup, c'est plus. Alors, ils étaient avec Zig, maintenant oui. c'est avec Sexy Center, la troisième truc. Donc, ils font des sextoys maintenant. Et bientôt, ils font.
Des Avengers.
voilà, ils font des sextoys d'Avengers. Ils font du partenariat, ils se diversifient pour pouvoir vendre de plus en plus.
Quentin, vas-y, si tu voulais rajouter des trucs, comme ça, moi je vais. Parce qu'il y a quelques questions qui défilent.
Non, c'était très intéressant parce que moi je connaissais pas les prix de reprise de Micromania. Et donc, du coup, tu nous dis qu'en fait l'ordinateur vous sort un algorithme. Et ce que vous dit l'ordinateur, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Pas du tout. En magasin, on ne peut pas changer les tarifs de reprise.
C'est pas la tête du client comme Geoff à l'époque.
D'accord. La seule chose qu'on peut faire techniquement, nous, en magasin, c'est appliquer des remises. Mais après, à ce moment-là, c'est envoyer un mail au directeur, expliquer pourquoi la remise. Et à ce moment-là, c'est toute une procédure.
Oui, c'est une procédure relou. Okay. Ouais.
Mais voilà, sur les prix de rachat, si tu vois que le mec, je sais pas. Enfin, c'est pas du favoritisme, mais si tu vois que le mec t'a ramené que des triple A qui sont récents, tu lui dis bon, bah écoute, tu m'as ramené que de la qualité, je te rajoute 5 balles sur ta reprise. Ça, tu peux pas le faire.
Ça, on peut pas le faire. Si les seuls rajouts qui peuvent être faits, c'est via des opérations commerciales.
D'accord.
Il y a une opération commerciale. Micromania parfois fait plus 30% sur la reprise des jeux si on ramène 5 jeux, au moins 5 jeux. Donc ça, voilà. Mais ça sera le seul différence qu'il peut y avoir si la personne demande de l'espèce ou du bon d'achat, il aura un tarif moins important en espèces. Mais ça s'arrête là.
Et pourquoi d'ailleurs?
Parce que le bon d'achat t'oblige à racheter dans le magasin.
Il rachète derrière.
Ah oui, c'est sûr qu'il rachète dans le magasin. C'est quoi, presque.
Voilà.
Ouais, yes. Donc du coup, Brice, je rebondis parce qu'effectivement, Brice, c'est un ami depuis le magasin, on s'est rencontrés au magasin du coup. Et c'est vrai que nous, bah, en indépendant, rien à voir. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un logiciel dans lequel on laissait une empreinte de ce qu'on avait repris avant. Donc il y avait le prix de reprise moyen, mais c'était surtout beaucoup de bon sens au niveau de l'ancienneté du jeu parce qu'en fait, on n'avait pas d'Argus. Donc en gros, notre Argus à nous, il était là et il fallait savoir à peu près toujours au fait des baisses de prix parce que tu peux te planter facilement. Et du coup, bah, c'est ce qui permettait parfois quand on a un pote qui passait. Alors, évidemment, ça restait quand même avec une marge de manœuvre réduite parce que le tout, c'est pas de rendre jaloux le client d'à côté. Mais voilà, quand Brice passait, il m'arrivait de lui faire un petit bonus et c'est normal.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dément.
Donc voilà, nous, c'est le côté indépendant et c'est pour ça que je le souligne. C'est ça aussi qui est agréable. On avait l'indépendance aussi de nos prix. On était souvent moins cher que vous, mais ça, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas le choix non plus. Nous, on a fait des prix qu'on essayait cohérents entre la concurrence de la GD, la concurrence d'Internet. Et la concurrence en général, on essaie d'être un peu entre les deux. Et sur nos reprises, on a toujours essayé d'être cohérent pour que on attire le plus possible de joueurs, c'est sûr, et que tout le monde s'y retrouve. Parce que
oui.
Voilà. Encore
parce
une fois,
que c'est un média qui est cher.
Après, Micromania, de manière générale, l'entreprise Micromania aurait le choix de vendre les jeux neufs moins chers. Elle a décidé de pas le faire parce que elle a décidé que ça reste un truc où elle gagne de l'argent parce que si elle les vend à un prix coûtant, au bout d'un moment, elle fait plus de jeux vidéo.
C'est pour ça qu'ils ont développé Zing.
Et donc, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs? Oui, voilà, pour les auditeurs, Zing, qu'est-ce que c'est? On
alors,
a vu.
Zing, en fait, c'est les produits dérivés de la pop culture. Donc, en gros, tout l'univers de manga, l'univers de films super-héros, le Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Star Wars aussi, bien sûr, les figurines pop qui vont avec tout ça, tous les produits dérivés. Du jeu vidéo aussi, et Micromania, du coup, avec tous ses magasins, avec ses 400 magasins, mais devient un gros acteur de la vente de ses produits.
Les fameuses Funko Pop.
D'ailleurs, de manière générale, le voir que. On voit que c'est un marché qui est très intéressant, parce qu'il y a des indépendants qui se montent sur ce secteur-là. À partir du moment où il y a des indépendants qui se montent dans un secteur, c'est-à-dire que c'est un secteur porteur. Il n'y a plus de magasins indépendants de jeux vidéo qui se montent, il faut dire ce qui est. Après, en produits dérivés, du coup, ça, c'est un nouveau marché, tout simplement, à prendre.
Ouais, ça cartonne.
Les gens, ils vont acheter leur jeu en téléchargement ou leur série, regarder leur série sur Netflix, ils vont acheter des produits après dérivés en fonction de ça.
Il y a The Geek Universe qui nous dit c'est une très bonne idée, Zing, je trouve.
Oui, mais en fait, c'est ce qui était déjà et qu'on voyait le phénomène dans les conventions. C'est-à-dire qu'avant, les conventions, il y en a certains, c'est devenu quand même des supermarchés. Et tu pouvais trouver que ces objets en convention.
En convention, ouais.
Tu pouvais pas le trouver ou sur Internet. Ça commençait à bien se développer sur Internet. Ou sinon, tu allais en convention. Je me rappelle, il y a encore 5-6 ans, je pouvais trouver aucune figurine de mon manga préféré en magasin. Ouais, et même sur Internet. Ouais, et je trouvais qu'en convention. Donc, c'était triste d'aller en convention, de payer une convention. Donc maintenant, Micromania... Il est venu, même la grande distribution, je sais pas.
Oui, carrément, ouais.
Le stand, c'est presque autant de jeux vidéo maintenant et autant de produits dérivés, presque dans certains magasins.
Complètement.
Voilà, c'est intéressant pour le consommateur en tout cas.
Et du coup, moi j'ai une question pour François, parce que nous on faisait pas trop de produits dérivés, enfin pas de ce genre. Est-ce que c'est pas les Amiibo qui ont un petit peu vulgarisé ça, justement, le côté produits dérivés, jouets, figurines en magasin?
Il y a eu le Skylander quand même avant.
Skylander aussi, avant,
c'est vrai. Oh là là.
Produit du genre. Après, pour au niveau historique, c'est tout simplement le groupe GameStop, donc à qui appartient Micromania, le Micromania australien. Je sais plus exactement. Je crois que c'est quand même les GameStop ont monté ces types de magasins qu'ils ont appelés Zing, comme Amazing. Et du coup, ils ont pris le pari et ça a cartonné là-bas. Et donc, du coup, GameStop a voulu développer aux États-Unis et partout. C'est parti, en fait, de l'idée d'une personne en Australie.
Yes, il y a Kevin qui nous demande à quand le rapprochement avec
ThinkGeek pour Zing. Est-ce que tu as des infos sur si vous allez avoir des produits ThinkGeek?
Alors, ThinkGeek, en fait, c'est le nom.
C'est dur
de
à dire,
Zing,
hein. Il va falloir changer le nom.
Ça appartient à GameStop aussi.
D'accord.
Techniquement, Zing, c'est le nom français. Européen et ThinkGeek.
C'est relou à dire.
C'est comme GameStop et Micromania. Après, les produits qu'ils vendent là-bas, ils ont des produits souvent un peu plus tôt. Ils peuvent avoir des exclusivités en fonction des marchés. Techniquement, il n'y a rien qui exclurait que Micromania ne fasse pas un produit qui est fait dans ThinkGeek. Mais c'est plus une histoire de est-ce qu'ils vont le faire. Disons qu'il y a énormément de références et ils peuvent pas tout.
Tout
proposer, tout vendre. Mais après, si un produit est disponible là-bas, il peut arriver parfois 1-2 mois plus tard à Micromania, parfois un peu plus. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un produit a beaucoup de succès à ThinkGeek, ils les vendent tous et il n'y en a plus.
Ouais, il y en a plus pour les autres petits magasins.
S'il y a une réédition par le fabricant, ça va arriver au monde entier. Mais et si ça marche pas trop bien là-bas, en fait, les gens, ils en veulent pas en Europe non plus. Ouais, le paradoxe, c'est ça, c'est que les produits qui marchent bien là-bas, n'ont pas le temps d'arriver en Europe.
Ils n'ont pas le temps d'arriver ici. Ouais.
Alors, c'est mon tour de poser une petite question.
Ah, mais vas-y, écoute.
Je ne sais pas. Comment sont calculés les prix par rapport à tous ces produits dérivés? Parce que personnellement, je trouve un peu cher.
Par contre, tu fais bien. J'ai très peu d'infos là-dessus parce qu'on ne le voit pas. C'est, je sais que au niveau des produits qui se vendent beaucoup, genre les pop. C'est pas excessif au niveau de ta...
Oui, après, niveau pop, je pense que c'est un prix conseillé partout et la plupart des boutiques restent
sauf en convention, du coup.
Quand on voit nos concurrents à côté, on reste quand même en moyenne basse. Mais après, sur les produits plus...
Plus spécialisés,
c'est peut-être plus cher, effectivement. De manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de produits... C'est un marché assez neuf. Beaucoup de prix qui sont en test. C'est-à-dire que le produit va être là. Un tarif assez important et va peut-être baisser. Il faudra attendre. S'il ne se vend pas, il sera soldé. Et à ce moment-là, il sera peut-être un tarif plus intéressant.
Oui, carrément. Mais ça m'est arrivé de trouver des produits chez Micromania Zing, du coup, de figurines qui avaient pas mal baissé. Et là, c'était intéressant, du coup.
Oui, voilà.
Et c'est vrai que dernièrement, j'en ai acheté pour offrir à ma chérie, du coup. Et là, d'un, j'ai casqué, et de deux, en plus, il y avait le prix en yens dessus qui m'a fait dire « Oh, putain, voilà la marge !»
Après, je sais pas combien... Je pense que la marge est faite quand même. De manière générale, ils se disent que si tous les produits qu'on vend, on les vend très peu, on peut pas faire... C'est pas des produits sur lesquels on peut faire beaucoup de volume énormément, à part les pop, on peut faire du volume...
Oui, bien sûr, parce que ça, c'est un gros succès.
Les produits doivent être là. Ils baissent au bout d'un moment. S'ils se vendent avant d'être baissés, tant mieux pour nous. Si les clients les trouvent au meilleur prix, tant mieux pour eux, parce que c'est aussi important qu'ils trouvent des produits à un tarif qui leur convienne. Mais les prix, après, comment ils fixent les prix, je pense qu'ils ils appliquent, je sais pas quel taux de marge ils appliquent, mais bon. C'est...
Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question?
Ouais, vas-y, ouais. Carrément.
Donc du coup, je reviens vers là aussi, mais j'ai remarqué des fois que dans certains Micromania, alors je ne sais pas si c'est une faute humaine ou informatique ou je ne sais quoi, mais que les prix...
Ça sent bien, ça part bien quand même.
Les prix ne sont pas posés forcément, par exemple sur des produits soldés, enfin soldés, il n'y a pas de solde à Micromania, c'est des bonnes affaires, des choses comme bon. Ça. Mais où par exemple, bah, j'ai pu trouver une figurine Sage Figart, je sais plus, au lieu de 80€, elle était à 30€ ou un truc du genre. Et un autre Micromania bah, n'avait pas affiché le prix et en gros, le vendeur m'a dit non, elle n'est pas en promo.
Alors techniquement, si dans ce Micromania, vous l'aviez prise, je l'achète quand même, il aurait passé en caisse, il aurait eu le prix en promo et vous l'auriez fait, il n'aurait pas pu changer le tarif.
Oui, voilà.
Voilà, ça c'est clair.
Sauf qu'il ne t'encourage pas du coup à le faire.
Ah ben ça, s'il a pas fait mal son travail. Ça, faut être clair. Okay. C'est une histoire de... Après, je ne vous cache pas, le lundi des soldes, on a 1600
produits dérivés. Oui, non, mais par contre, ouais, j'imagine qu'il y a tout un tas de changements de prix.
Là, c'est le
c'est le rush,
côté quoi. Humain qui fait qu'on peut pas tout rééditer, mais après là où c'est plus une histoire, un problème humain qui fait qu'il n'est pas fait son travail comme il faut.
Oui, c'est le grand jeu, au solde justement de trouver un Micromania qui a justement fait une très bonne affaire sur un jeu vidéo et tu t'aperçois en lui demandant sur le fichier qu'il y a un Micromania bah, qui n'a encore un gros stock parce que eux, ils n'ont pas appliqué le prix. Donc je sais que par exemple si tu trouves une bonne affaire jeu vidéo et qu'il n'y en a pas dans ton Micromania et qu'ils en ont plus, tu demandes et tout et en général tu aperçois qu'il y a un Micromania qu'ils n'ont pas encore étiqueté le lendemain ou le surlendemain et tu peux le voir en temps réel, donc il faut vraiment demander des fois aux vendeurs.
Mais après c'est hyper relou, après on va rendre l'antenne les copains dans deux minutes, mais après c'est hyper relou, tu vois genre à la FNAC, genre Electronic Arts, ils font souvent des baisses de prix de 20€, et genre on vient de voir, on te dit bon bah Brice, cet après-midi, il faut que tu réétiquettes les 800 FIFA que t'as, il faut que tu réétiquettes tous les Tomb Raider, tous les jeux Electronic Arts, tu les réétiquettes. Tu changes toutes les étiquettes, ma main, tu les imprimes, tu les colles une par une, tu les remets en rayon, machin. Et puis deux jours après, bah ça y est, Electronic Arts, ils ont arrêté la promo. Donc tu remets le prix normal. C'est un truc de ouf.
Le commerce, c'est faire et défaire en permanence.
Mais c'est ça. Et du coup, bah, de temps en temps, il y en a un qui passe à la trappe. Et puis bah, voilà, bah, le jeu, il part, bah, il est en promo ou il ne l'est pas. Enfin, tu vois, c'est ça le truc, quoi.
Eh oui.
Yes, bon, en tout cas, merci à vous. Merci sur le chat et sur que ce soit sur Facebook ou sur Twitch. Vous avez été hyper nombreux la soirée, c'était cool. Puis en tout cas, merci à François et à Geoff.
Avec plaisir, oui.
Yes, j'espère que chez vous, ça vous aura aidé peut-être un peu à essayer de comprendre un petit peu tout ce système du jeu vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Nous, en tant que consommateurs, on sait pas trop. À part Tagazu, bon, qui traîne dans la mafia Tagazu, mais...
Non, mais c'est pour dire que c'était pas des, voilà, c'est pas des méchants. Voilà,
ah non, bah non.
Des méchants des jeux vidéo.
Et c'est surtout qu'il faut oublier que ce sont que des gens, parce que moi, je l'ai vécu en tant que vendeur chez EasyCash, mais on applique les lois de l'entreprise aussi. Et ce qu'on nous donne aussi en consigne. Donc ça, faut pas l'oublier.
Oui, c'est vrai. Sa boîte des vendeurs, allez-y à la cool si vous êtes un peu déçu ou quoi.
Généralement, c'est pas forcément... Ça peut être la faute du vendeur, mais généralement, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, c'est parce que derrière, plus haut, on nous a dit qu'il fallait faire comme ça.
Alors, il y a The Geek Universe qui fait très bonne émission. Merci les copains. Il y a Léa qui fait verdict acheter sur Internet. Quoi.
On a tout perdu là.
Visiblement, alors, elle faisait caca pendant l'émission.
Pour faire le good cop, par exemple, là, pour Micromania, ils ont parfois des produits exclusifs en série limitée que tu trouves que chez Micromania.
Oui.
Et ça fait plaisir aux joueurs parce que tu te dis, tu le trouves pas sur Amazon et tout, et t'es content d'avoir une série limitée.
Carrément. D'ailleurs, comment ça se passe au niveau, parfois, t'as des DLC qui sont que chez Micromania.
Mais en fait, ils négocient, alors que c'est en plus comme ils font partie du GameStop, ils négocient avec les éditeurs pour avoir des DLC exclusifs. Et de manière générale, là on le voit où les magasins ou des pays comme, qui n'ont pas ces chaînes de magasins comme on va dire, la Hollande, l'Allemagne ou autre, du coup n'ont pas de revendeurs pour avoir les DLC exclusifs et ne peuvent pas avoir les DLC exclusifs des jeux quand ils achètent en magasin, ils sont obligés de passer autrement.
D'accord, parce que souvent voilà, tu regardes le truc et tu dis « Ah bah tiens, chez Micromania, il y a ça, chez un autre, bah, il y a ça, chez Amazon ».
Ben, c'est le parti pris de Micromania, c'est de vendre des jeux avec un peu plus de contenu sur du DLC, sur des produits dérivés aussi parfois, qui plaisent beaucoup. Et les jeux sont un peu plus chers, après c'est le client qui décide. Il va acheter un prix, soit il va acheter un jeu.
Ils sont entendus avec l'éditeur pour prendre une certaine quantité. Et je pense derrière négocier aussi le fait, ben, écoutez, on s'engage à vous en prendre tant, mais derrière, donnez-nous un skin, donnez-nous un truc exclusif à la chaîne Micromania. Je pense qu'il y a ça aussi.
Oui, mais de toute façon,
il y a de ça.
ils achètent énormément en Micromania.
Yes. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Il est 21h passé de quelques minutes. C'est prédestiné. Juste après, mesdames, messieurs, il y a le Club des Losers. Si c'est pas beau, ça. Sur la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Tac. Demain, on va commencer Skyrim en VR, mesdames, messieurs. Oula. Ouh, il y a eu la grosse mise à jour et tout. On va s'essayer ça. Demain matin, on finit Far Cry 3. Il manque 2-3 trophées. On fait ça en speed. L'après-midi, on se fait du Skyrim VR. Et vendredi, est-ce qu'on se calerait pas un petit Wipeout?
Ah, mais avec grand plaisir.
Yes, parce que du coup,
je ramènerai ma DeLorean. Ah oui.
Private joke de ouf. Mais voilà, on va faire plein de choses et on va se commencer aussi. Alors, Jurassic World Evolution, parce qu'on doit faire une émission avec Raco, spécial Jurassic Park. J'ai toujours pas reçu.
Bah écoute, moi je suis passé à Carrefour du coup tout à l'heure, me disant que j'allais le trouver, voire peut-être moins cher, hein, forcément. Eh ben dis donc, il est tellement jeu de niche qu'ils l'ont même pas, dis donc.
Ah ben ça, dans la grande surface, ça va être tendu. Hein.
Eh ben ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Même donc, bon. Leclerc devait en recevoir pas des masses, donc va falloir que je me grouille.
Yes, donc on va essayer de trouver ça. On va essayer aussi Red Faction, le remastered de Red Faction Guerilla, mesdames, messieurs. Voilà, c'est un jeu que je kiffe, alors que j'aimais à l'époque. Le remastered, à voir s'il tient la route ou pas. On se fait ça sur la chaîne toute cette semaine. Quoi qu'il en soit, le replay sera en ligne dès demain, iTunes et PodCloud, comme d'hab. Il sera sur Facebook. Il y aura aussi le replay de Twitch et du Facebook Live. Et puis c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a du foot encore? Je sais pas. Vous les entendez ouais, ou pas?
Enfin, je sais pas s'il y a une émission après nous, mais il y a du foot ce soir.
Oui. Ok, bon, a priori, ils doivent être là. Allez, passez une bonne soirée à l'écoute de Radio. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, bye bye!
Bye bye.
La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio.
Oh, alerte au Google. Alerte au Google, les enfants.